Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bien, oui, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Acte 3 de notre émission spéciale Coupe du Monde en configuration mondiale pour faire le prolongement un peu des directs qu'on vous a fait vivre tout au long de cette semaine. Alors, on va faire un petit bilan de la fin des phases de poules, poules éliminatoires du premier tour. Et puis, naturellement, on reviendra sur une bonne partie des huitièmes de finale. Et puis, on tirera déjà quelques prospectives sur les quarts de finale qui arrivent. Alors, avec nous, des fidèles ce soir, comme d'habitude. D'abord, je salue mon ami Stéphane Desenclos, ça va ? C'était bien le Qatar, Stéphane ? 3 jours ?
C'était bien.
Ouais, très bien, 3 jours, vous avez entendu avec Jacques Vendroux, donc la semaine dernière, très bien. Allez, notre ami Eric qui est avec nous aussi, salut Eric.
Bonsoir à tous.
Ça va ? Bon, on vient d'assister donc,
lui,
à la défaite.
Moi j'étais à Rouen.
Oui, on vient d'assister à la défaite du Japon au tir au but face à la Croatie, on en reparlera. On aura aussi donc Lounis qui est avec nous.
Bonsoir tout le monde.
Ça va ? Il était hier après-midi avec nous, Lounis, pour donc vous faire vivre et commenter la victoire de l'équipe de France contre la Pologne en 8e. Et puis autre fidèle de cette émission de ce lundi soir, c'est Julien. Ça va Julien, agent joueur ?
Très bien.
Ça va ? Content de... Oui, bah, nous tout va bien. L'équipe de France poursuit son chemin.
Ça nous ravit.
Très bien. Et puis on aura naturellement aussi notre ami Noël Tosi, notre expert, donc coach. Hein, Noël Tosi.
Il doit être déçu là.
Ouais, dans quelques minutes. Oui, bah. Ouais,
mais... Comme il nous écoute. Hein, désolé Noël. Hein,
ouais.
Ça n'a pas joué grand-chose.
Bon, hein, on va parler de tout ça. Alors, justement, d'abord, très brièvement, avant d'appeler Noël et de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, cette Coupe du Monde, messieurs, à tour de rôle, elle est passionnante. On le dit chaque semaine, mais c'est vrai que les matchs se succèdent et on se régale.
Ouais, moi franchement je trouve qu'on est sur une Coupe du Monde qui est vraiment à la fois intéressante à la fois pour les, parce que chaque année on a deux types de public, hein. On a le public qui s'intéresse au foot pour la Coupe du Monde, et puis qui découvre de temps en temps la Coupe du Monde, et je pense que il voit des beaux matchs, il voit malgré ce qu'on voulait bien dire en avant ça, je pense une belle Coupe du Monde. Et puis il y a les férus de Coupe du Monde et les férus de foot, et je trouve qu'on a vu des phases de groupe qui étaient vraiment très intéressantes. On a vu des surprises, donc c'est jamais bon pour...
Oui, mais Eric, des surprises dans un premier tour, il y en a toujours eu en Coupe du Monde.
Ouais, mais oui, mais je trouve que cette année, c'est des surprises qu'on n'attendait pas. Enfin, on voit toujours des surprises, mais par exemple, l'Arabie Saoudite-Argentine, c'est une surprise qu'on ne voit pas dans un premier match de groupe comme ça, sur une grosse équipe comme ça. La Belgique éliminée, l'Allemagne éliminée tout de suite. Ouais. On n'a pas vu ça en 2018.
L'Allemagne éliminée, si. On l'a vu
L'Allemagne est éliminée en premier tour, mais Belgique fait demi-finale. Oui. Moi j'ai trouvé que c'était des beaux matchs, serrés pour certains. Et il y a des équipes qui se sont bien battues, on l'a vu encore. Le Japon est éliminé aujourd'hui, mais je trouve qu'ils ont fait une très très belle Coupe du Monde. Et puis après il y a des favoris qui sont là, qui sont présents, comme la France, l'Espagne qui a eu un petit coup de mou mais qui continue, le Brésil on va voir ce soir. Voilà, moi je suis une belle Coupe du Monde, j'aime bien.
Alors 120 buts pour 48 matchs sur ces matchs du premier tour, ça fait une moyenne de 2,5 malgré les 6-0-0, donc on est sur une moyenne tout à fait correcte.
Ouais, très bien, deux buts et demi par match, franchement. C'est ce qui montre que je pense que l'intérêt aussi de cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde qui est à la fois ouverte et où on a des buts assez sympas.
Et comme le disait Jacques Vendroux hier dans l'interview, il y a les 5 continents qui ont été représentés dans ces huitièmes de finale. Donc ça aussi, c'est nouveau, quoi.
Ouais, c'est clair. Mm-hmm. Je trouve que c'est vraiment... je la trouve un petit peu plus hétéroclite qu'on a pu le voir. Moi, j'en ai fait quand même pas mal, puisque ma première...
74 comme nous,
première 82, moi. Ah oui. 82, ouais. Parce que avant, je regardais un peu, mais voilà. Ma première 82.
Donc... Bon, Stéphane, toi qui étais au Qatar quelques jours, là, comment t'as perçu cette ambiance ? C'est vrai que c'est pas mal la Coupe du Monde. Hein,
non, c'est sûr que c'est pas mal. D'ailleurs, c'est les échos, il y a les échos de tous les journalistes qui sont là-bas et tout. Il n'y a quasiment pas. il y a quasiment pas un écho de mauvais. Tous les journalistes sont même sur, et ils disent même, c'est le grand
moment, ça, il y a tel... de, voilà.
Non, mais même sur l'ambiance, sur l'organisation et tout. Bon, Jacques me l'a redit, me l'a dit plusieurs fois. Dit, l'organisation, elle est parfaite. Il y a franchement rien à dire, rien à dire. On en serait qu'on a un peu plus, on a eu aussi. Pas mal de, peut-être de la chance, je ne sais pas, au niveau de l'arbitrage. Il n'y a pas eu de grande polémique d'arbitrage. Ça commence à être un petit peu plus tendu maintenant avec, avec les matchs à élimination directe. En tout cas, au premier tour, ça, on a l'impression que ce premier tour, il a été un peu comme dans un rêve éveillé où tout le monde pouvait battre tout le monde, tout le monde pouvait gagner. Ce n'est pas parce que tu avais gagné 7-0 que tu allais forcément, le coup d'après, battre ceux qu'on... C'est quand même fou. Le plus grand exemple, c'est... le Costa Rica, je crois qu'il Costa Rica qu'on prend 7 contre l'Espagne, autour d'un sang, ils sont
et qui
était
à deux doigts de se qualifier, quoi.
Et puis qui gagne le match d'après, qui gagne son match d'après, et qui finalement a un peu embêté. Là, on peut dire peut-être qu'ils ont un petit peu plus embêté les Allemands. Et pour revenir juste sur regarder les résultats, moi je trouve que je suis peut-être trop gentil, mais je trouve qu'on est quand même dur avec les Allemands. On est dur avec les Allemands parce que je trouve que finalement on l'a vu avec le Japon.
Ça fait deux fois, Stéphane.
Oui, non, je trouve
ça veut dire qu'il y a une reconstruction.
Oui, mais
qui est un peu plus longue.
Il n'y a rien à voir.
Oui, mais c'est pas un accident, quoi.
Non,
c'est-à-dire deux fois, c'est pas un accident.
C'est pas le même coach, c'est pas le même esprit.
Justement.
Et je trouve que moi, je trouve qu'on est dur avec les Allemands parce que les Allemands, ils sont tombés et aussi c'est quand même un incroyable concours de circonstances, quoi. Ils sont tombés, ils sont battus par le Japon et ils tombent aussi sur l'Espagne qui laisse, bon, je sais pas est-ce que l'Espagne a laissé gagner le Japon, j'en sais rien, mais en tout cas qui fait peut-être pas, qui aurait dit après le 7-0 des Espagnols dans le premier match, qui aurait dit que le Japon allait battre les Espagnols, quoi. Les pauvres Allemands, entre guillemets, ils se disent non, ils ont fait un très bon match contre l'Espagne, on bat le Costa Rica, on remplit notre boulot et on passe, quoi. Malheureusement, qui pouvait s'attendre à ça? C'est absolument... je trouve c'est donc, je trouve qu'on est un peu dur quand même. Il y a des équipes. Je rappelle que l'Italie, championne du monde en 82, justement, tu parlais de ta première Coupe du Monde, Eric, en 82, je pense qu'il ne devait peut-être même pas passer le premier tour.
Non,
avec la VAR, il ne passe peut-être pas le premier tour. Je crois que tu as un Cameroun-Italie avec un but, je me rappelle vaguement, un but qui a été refusé, qui a été accepté alors qu'il aurait dû être refusé, ou le contraire, je ne me rappelle plus. Et si tu regardes bien, parce que ça s'est joué dans le premier, je crois qu'ils sont passés avec combien de points?
Le nombre de buts marqués.
Trois points.
Un but marqué.
Ouais, c'est hallucinant. Et donc, c'est très chaud. Donc, moi, je les voyais mieux, les Allemands. Je les voyais mieux.
Ouais, mais tu vois, moi, où je suis pas d'accord vis-à-vis de ce côté-là, juste un petit point après, effectivement. Le côté, c'est que je suis pas d'accord qu'on soit trop sévère avec eux pour deux choses que tu as dites, justement. La première, c'est que deux coachs différents, donc deux sélectionneurs différents, donc ça veut dire que tu changes. Alors, c'est pas aux sélectionneurs qu'il faut en vouloir, mais je trouve que c'est aux joueurs. On a renouvelé un petit peu, le nouveau a renouvelé un petit peu, mais réellement, les cadres n'ont pas été là et les cadres deux fois de suite. Franchement, ils n'ont pas fait le boulot.
Oui, mais sur un match.
Mais
d'accord, non, mais je dis juste ça, ils ont raté un match.
Peut-être, mais la deuxième chose, c'est que si tu dois. Si en fait, ta Coupe du Monde, tu la bases sur le fait de dire ah bah ouais, mais si en fait l'Espagne, ils avaient gagné le Japon, en fait, on serait qualifié. Bah, tu vas pas au bout.
Non, mais
non, je suis désolé.
Pour résumer, c'est un premier tour où tu as trois matchs. Je pense que c'est là. Il faudra regarder peut-être tous les résultats. Il y a peut-être d'autres exemples. Mais c'est vraiment. Ils ont raté un match. Ils ont raté un match contre le Japon. Ça s'est joué. Je crois que le Japon marque deux buts
en début de deuxième mi-temps. Mais
ils peuvent le gagner 3-0 le match en plus.
Ils ont raté un match. Bon. Ils sont dehors. Je trouve que c'est un peu sévère pour ça. La Belgique, par exemple. La Belgique a raté ses trois matchs.
Même si sur le dernier match, ils ont les occasions pour
faire. Ouais, mais ils ratent leurs trois matchs, la Belgique, complètement.
Pour moi, l'Allemagne, c'est un problème de finition. Ils ont beaucoup de mecs qui savent faire la différence, mais il n'y a personne pour les mettre dedans.
Et là, Djibou a pour nous dire, nous parler de Füllkrug. mais il a raison, et il a très probablement raison, bien sûr. Et après, il y a des choix de coaching et tout, peut-être qu'ils ne sont pas bons. Mais je trouve que c'est un petit peu sévère, parce que je trouve qu'ils ont raté un match. Encore une fois, je dis, la Belgique, ils ratent leurs trois matchs, ils sortent.
Alors, Julien, comment vous trouvez cette Coupe du Monde? Après, on va saluer LHJ qui vient d'arriver. Ça va la voix?
LHJ, ouais,
pleine forme.
Super.
Ça va. Julien, d'une façon générale, cette Coupe du Monde.
Non, Coupe du Monde très intéressante. Ouais. C'est surtout le suspense qu'il y a eu sur les trois dernières poules. C'était assez incroyable. À chaque fois, c'était vraiment à la minute, ça changeait. On avait beaucoup de... Enfin, tout le monde pouvait encore se qualifier, quoi. Donc, oui, c'était assez incroyable. Le Costa Rica, qui était qualifié pendant 2-3 minutes contre l'Allemagne, alors qu'ils sont ultra dominés, qu'ils peuvent en prendre 4 en première mi-temps.
Non, mais il y a eu aussi la Pologne qui se qualifie du chutel devant le Mexique, et puis d'autres...
En ne faisant plus le jeu, en étant complètement dominé, mais en attendant un petit miracle, hein, c'est ce qui s'est passé. Donc, ouais, c'était intéressant parce que, justement, beaucoup de suspense, beaucoup de possibilités.
Alors, on va revenir sur le groupe. El Hadji, toi, ce début de Coupe du Monde, on le voit, hein, on s'enflamme, c'est sympa. Et puis l'équipe de France est encore là.
Ouais, l'équipe de France est encore là. J'ai envie de dire même que l'équipe de France est bien présente. Voilà, ils assument leur rôle de favori en enchaînant les victoires, etc. Je voulais juste revenir sur un point, Stéphane, sur le point où tu disais que l'Allemagne, c'est sévère pour eux parce qu'ils ont raté un match. Mais excuse-moi, Stéphane, mais on est en Coupe du Monde. On est en Coupe du Monde, ils voient le groupe qu'ils ont, ils savent qu'ils ont l'Espagne à jouer derrière, ils sont obligés de gagner.
Ouais, le premier match.
Ils sont obligés de gagner, surtout le premier match, en sachant que la Coupe du Monde, juste avant, vous êtes sortis en phase de poule, ils sont obligés de gagner. Il n'y a pas de... Ils ont fait une faute, et c'est le football. Ils ont fait une faute, ils n'ont pas réussi à gagner face à l'Espagne, ils ont gagné contre le Costa Rica, et même ça, c'était ric-rac. Franchement,
c'est ce que je disais.
Totalement.
Je dis juste, la Belgique, ils sortent, ils ont raté leur Coupe du Monde complètement. Ils n'ont jamais été dedans. Moi, je dis juste, l'Allemagne, c'est un tort aussi, tu as tout à fait raison. Je suis peut-être un peu trop indulgent là-dessus. Mais l'Allemagne, pour moi, il y a eu surtout une mi-temps peut-être. La première mi-temps contre le Costa Rica, où ils sont pas trop, où ils sont pas trop là, les Allemands. Mais ils ont raté un match. Et un match, effectivement, comme tu le dis, ça pardonne pas.
Le match, j'ai envie de te dire, ils l'ont même pas vraiment raté, puisqu'ils ont dominé tout le match, quasi tout le match, ils l'ont dominé. Ils n'ont pas réussi à concrétiser leur occasion. Première mi-temps, normalement, il y a 3-0, le match est plié.
Mais je trouve que c'est un peu. C'est peut-être, je dis juste, j'ai pas dit qu'il mériterait d'être là et tout. Je dis juste, peut-être, c'est un peu sévère. Le Danemark, par exemple, bien sûr qu'il n'est pas au niveau de l'Allemagne, on est bien d'accord. Le Danemark rate sa Coupe du Monde complètement. Donc là, on peut y aller. Ouais. L'Allemagne, je trouve juste que c'est pas vraiment ça.
Oui, ça passe à peu de choses.
Ouais, voilà.
L'unique. Après cette Coupe du Monde, après on aura Noël Tosi et on fera le point sur tous les groupes.
Moi, pour vous dire la vérité, cette Coupe du Monde, j'étais l'un des personnes qui était vraiment sceptique par rapport à cette Coupe du Monde. Coupe du Monde en novembre, décembre.
Il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, on ne les entend plus.
Ça, je suis d'accord parce que là, je prends énormément de plaisir à regarder cette Coupe du Monde. Elle est vraiment plaisante. Il y a du beau jeu, il y a des belles surprises, notamment le Japon, le Maroc ou d'autres. Mais franchement, je prends vraiment du plaisir avec cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu fermer ma bouche, quoi.
Oui. Donc, on va appeler notre ami Noël Tosi. Noël, bonsoir. Ça va, Noël ?
Oui, parfait.
Oui, très bien, Noël. Alors, vous, avant d'entrer dans le détail sur les groupes, elle vous plaît, cette Coupe du Monde, comme nous, hein ?
Ah oui, un régal. Régal. On a tout oublié. C'est vraiment... C'est peut-être une des meilleures, hein, parce que, sincèrement, moi, je me régale. Les matchs sont passionnants et on ne sait toujours pas qui va aller au bout.
Il y en a certains pour certains pour qui c'est fini, mais d'autres, effectivement, on ne sait pas pour qui on va aller au bout. Alors, on va refaire un petit point sur un petit bilan des phases de poule, hein, et puis on parlera des huitièmes de finale, et puis on essaiera de voir un peu comment peuvent se dérouler les quarts de finale. On va quand même rappeler que quand on a quitté ce studio lundi, le Portugal battait l'Uruguay 2-0. C'était le dernier match de cette deuxième journée. Alors, pour donc le groupe A, on a eu le Pays-Bas qui ont battu Qatar 2-0 et le Sénégal Équateur 2-1. Ce qui fait donc, Noël, que ce sont les Pays-Bas dans le groupe A qui ont fini en tête avec 7 points, devant le Sénégal 6 points, deuxième. Troisième, Équateur 4 points et quatrième, Qatar 0 points. C'est logique ces résultats pour vous ?
Oui, et puis on a vu en huitième de finale les Pays-Bas qui ont confirmé, ils montent en puissance.
Oui.
Ils avaient 3-4 joueurs qui n'étaient pas à 100% de leurs possibilités, dont Memphis Depay. Non, et puis vous avez vu la déclaration de Van Gaal, et il est allé au Qatar pour gagner la Coupe du Monde.
Oui.
Lui, il se fout éperdument du beau jeu. Il ressemble un petit peu, cette équipe-là, elle ressemble un petit peu, je le disais l'autre jour avec Stéphane, à l'équipe de France de 98, qui jouait pas forcément bien, mais qui était assez efficace. Et ils sont vraiment efficaces,
On va rappeler qu'ils ont effectivement gagné leur huitième de finale devant les USA 3-1. Bon, il n'y a pas eu photo, et puis les Américains sont à leur place. Je crois que c'est la quatrième participation en huitième de finale des Américains.
Alors, moi, j'ai une réflexion à avoir par rapport à ça.
Oui.
Il faut savoir que, vous savez que j'ai entraîné là-bas aux États-Unis, entraîné à Sacramento.
Oui.
Et il y a un nombre incroyable d'entraîneurs mexicains, espagnols, etc., qui sont aux États-Unis. Or, vous savez que le football espagnol est basé sur la conservation, etc. Au début du football aux États-Unis, on avait un football qui était plus vertical, qui allait droit au but, ou la préparation athlétique, les duels. D'ailleurs, on le voit avec l'équipe féminine des États-Unis, qui a gagné la Coupe du Monde, parce qu'ils couraient plus que tout le monde. D'accord ? Quand ces entraîneurs espagnols qui sont allés sur le territoire américain et qui ont donné une grande influence au football aux États-Unis, ils ont remplacé l'état d'esprit des Américains de kick and run, d'aller devant, de courir, de se battre, de centrer, par cette conservation. Mmh. Moi, je pense que l'équipe américaine s'est trompée complètement. Je veux dire, aujourd'hui, si elle veut jouer comme les équipes européennes, elle n'a aucune chance dans cette Coupe du Monde. Pourquoi les Japonais ont fait des différences ? Pourquoi certaines équipes ont fait la différence ? Pourquoi les Coréens ont fait la différence ? Parce qu'ils ont joué comme des Coréens et comme des Japonais.
Leur culture,
les Américains,
Ouais.
Les Américains, ils ont une culture anglaise. Mmh. Et il faut qu'ils jouent à l'anglaise. Il faut qu'ils jouent à l'américaine, tout simplement. Ouais,
totalement, voilà. Totalement.
Et moi, c'est l'équipe qui m'a le plus déçu.
Oui.
Voilà. Mmh.
Alors, donc,
il y avait quand même quelque chose d'autre à faire dans ce groupe.
Plus que le Canada, Noël ? Moi, c'est le Canada qui m'a le plus déçu.
Le Canada, alors, vous voulez que je vous fasse rigoler ? Vous savez que l'entraîneur du Canada, il a entraîné les féminines de Nouvelle-Zélande, d'accord ? Et il a entraîné après l'équipe féminine du Canada. Il a entraîné l'équipe du Canada comme des féminines, c'est-à-dire, le premier match, ils ont tout donné pendant les 40
minutes. On l'a vu, hein, il n'y a plus rien.
Ah oui, et d'habitude, un joueur, ça fait 10-12 kilomètres sur 90 minutes. Eux, les Canadiens, ils ont battu le record. Ils ont fait plus de 8-9 kilomètres sur une mi-temps. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent en deuxième mi-temps ? Je vais prendre un exemple tactique pour bien vous faire comprendre. Moi, je suis entraîneur d'une équipe. Je vais faire du pressing. Je sais que je ne peux pas faire du pressing pendant 90 minutes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une équipe au monde qui peut faire du pressing pendant 90 minutes. Au bout de 25 minutes, quand je vois que j'ai raté 5 occasions et que je n'arrive pas à passer contre une défense groupée, qu'est-ce que je fais ? Je déplace mon bloc équipe comme Deschamps l'a fait dans le match, tout simplement dans le dernier match ou même dans l'avant-dernier match. Je mets mon bloc équipe beaucoup plus bas pour essayer de jouer le contre. Eh bien lui, non. L'entraîneur canadien, il a continué à attaquer, il a continué à déborder. Ah, c'était beau. Et après, il a ramassé ses joueurs à la cuillère en deuxième mi-temps. Oui. Et ils n'arrivaient même plus à courir, ils n'arrivaient même plus à faire une passe. Mmh. Et les trois matchs ont été pareils.
Oui,
donc
oui.
Je me dis que s'ils veulent faire quelque chose dans leur Coupe du Monde en 2026, la première des choses qu'ils ont à faire, c'est changer leur entraîneur. Hein. Mmh.
Très bien, alors on y reviendra. Dans le groupe B, donc, on va rappeler quand même que l'Angleterre avait fini en trombe en battant le Pays de Galles 3-0 et les États-Unis avaient battu l'Iran 1-0. Donc l'Angleterre a fini première avec 7 points, c'est pas une surprise. Les USA, donc on en a parlé, 5 points, deuxième. Troisième, l'Iran, donc qui termine avec 3 points. Et quatrième, le Pays de Galles, 1 point. L'Iran, c'est quand même positif, Noël ?
Ah, puis l'Iran, oui. ils ont pris des positions incroyables.
Oui, oui.
La main sur la bouche pour pas chanter l'hymne du pays, ils se sont battus comme des lions. Moi, je trouve que on dit que le football et la politique, ça va pas de pair. Mais moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est bien pour le pays, c'est bien pour le football, c'est bien pour leurs convictions. Et c'était une belle équipe. Mais bon, je pense que les États-Unis méritaient d'être en huitième de finale. Voilà.
C'est à peu près
plus que l'Iran.
Ouais, oui. Ouais. Alors, dans le groupe C, alors là, ça a été un groupe passionnant, hein, puisque on a vécu ça avec beaucoup de ferveur pour la dernière journée. Donc, l'Argentine qui bat la Pologne 2-0, et donc le Mexique qui va gagner devant l'Arabie Saoudite 2-1. J'ai envie de vous dire que la boule de cristal, elle s'est cassée, hein, pour l'Arabie Saoudite, puisque l'Argentine s'impose avec 6 points. Devant la Pologne, 4 points, 0 au goal average. Et le troisième, le Mexique, 4 points moins au goal average. Ça veut dire que ça s'est joué à pas grand-chose. Et quatrième, donc, Noël, l'Arabie Saoudite avec 3 points.
Elle aurait mérité de passer.
Oui,
cette équipe-là. Je vous rappelle qu'à 0-0, ils ont un pénalty, ils ratent ce pénalty. Et après, on ne va pas reparler du premier match contre l'Argentine qui était superbe, mais il n'aura pas manqué grand-chose. Et puis, alors, moi, ce que j'ai aimé, je ne sais pas si vous avez vu ça comme moi, ils ont un gardien absolument exceptionnel. C'est un kamikaze. Mmh. C'est un gardien qui a fait des arrêts à Loïs, c'est ça ? Pour moi, j'avais rarement vu un gardien aussi bon quoi, dans ce contexte-là. Même si le gardien japonais ce soir m'a fait aussi une belle impression.
Oui. Et le Mexique qui finalement souvent arrive au stade des huitièmes de finale. Et cette fois-ci, le Mexique reste donc bloqué en phase de poule.
Oui. Ouais, bon, c'est dommage pour Tata Martino, oui. Mais vous savez, on dit souvent que une équipe est à l'image de son entraîneur. Oui. Quand on voyait Tata Martino sur le blanc, l'excitation qu'il avait, le stress qu'il avait sur lui, la peur qu'il avait sur lui, ça se ressent. Les joueurs, moi, je sais que souvent les remplaçants me le disaient en parlant peut-être d'autres coachs, etc. Ils disaient, vous savez, notre coach. Il a 100 de fièvre sur le banc, etc. Et les joueurs le ressentent. Si vous avez peur, votre équipe a peur. Si vous n'êtes pas sûr de vous, l'équipe n'est pas sûre de vous. Et regardez cet entraîneur japonais qui est complètement stoïque, ou même l'entraîneur de Croatie qui n'a jamais tremblé. Il n'a jamais tremblé. Il a toujours su qu'il allait passer, etc. Et c'est vrai que les positions, les attitudes sont très importantes chez l'entraîneur.
Alors, le groupe D, on y reviendra tout à l'heure, hein, on va être un peu plus long parce que c'est l'équipe de France. On va directement venir au groupe E, et là, c'est vrai que ça a été l'énorme surprise de cette poule. Le Japon qui termine donc première, hein, victoire du Japon devant l'Espagne 2-1, après avoir battu, on l'a évoqué tout à l'heure, donc l'Allemagne en premier match. Et puis l'Allemagne donc, qui bat le Costa Rica 4-2. Donc le Japon premier 6 points, deuxième l'Espagne 4 points mais plus 6 au goal average. Troisième l'Allemagne 4 points mais plus 1 au goal average. Et quatrième le Costa Rica avec 3 points. Vous êtes d'accord avec nous l'Allemagne?
Alors,
c'est...
Je vais vous dire quelque chose.
Oui.
D'abord, moi, si je suis allemand aujourd'hui,
oui,
je peste contre la VAR. Parce que depuis, on a vu que le ballon était sorti au moins de 5 cm. Sur le but du Japon.
Oui.
Contre l'Espagne. Donc, c'est vrai que la VAR, elle n'est pas toujours juste. Et alors, les pauvres Allemands qui ont fait une belle Coupe du Monde, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont perdu qu'un match contre le Japon. Ce match-là, ils ont eu des occasions. Bon, est-ce qu'il fallait mettre cet avant-centre? Est-ce qu'il fallait faire confiance à Müller d'entrée de jeu? Bon. Et surtout, quelque chose que tout le monde a remarqué, c'est que Neuer n'est plus Neuer.
Oui, ça oui. Ça, on l'a vu.
Neuer a fait... Neuer, il en a eu quelques-uns pour lui, des buts. Hein. Mmh. Et après être éliminé à cause d'un ballon qui sort de 5 cm ou de 10 cm... Je trouve que avec les moyens modernes, quand on propose les images à l'arbitre, on ne lui propose pas les images que nous voyons. On lui propose les images de loin. On ne lui a pas proposé l'image qui était à côté de la ligne où on voit vraiment que le ballon sort. Depuis, ça a fait le tour du monde et tout le monde a vu que le ballon du Japon était sorti contre l'Allemagne. Donc, moi, je veux bien la VAR. Mais la VAR, il faut savoir s'en servir. Hein.
Excuse-moi, monsieur Tosi. Juste une chose, monsieur Tosi. Moi, je suis d'accord sur ça. Mais le côté, c'est que si vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Stéphane, si vraiment l'Allemagne était à attendre que le Japon ne marque pas un but, etc., pour être qualifié, au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'aller au bout. Moi, je pense que réellement, quand on a été éliminé au premier tour il y a 4 ans, on ne doit pas faire le premier match qu'ils ont fait. Je suis désolé. Réellement,
je suis entièrement d'accord avec toi. Nouvel entraîneur, je prends mes responsabilités, je sors Müller, je sors Neuer.
Mais juste quoi.
À être éliminé. Je veux bien être éliminé avec une.
Bien sûr, il y a toujours des erreurs.
Voilà.
Mais
voilà.
L'Espagne, si tu veux, là, comme pour dans ce groupe, on est d'accord que l'Espagne, c'est le négatif ou le positif de l'Allemagne. L'Espagne, il passe en huitième de finale en ayant réussi un match quasiment dans la Coupe du Monde. Parce que s'ils ne mettent pas 7 buts, s'ils en mettent, je ne sais pas combien, il faut regarder s'ils ne gagnent que 1-0 ou 2-0.
Ils ne passent
peut-être pas. Donc, ils ont réussi un match. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais juste que je trouve qu'on est dur contre l'Allemagne. Je ne dis pas que c'est bien tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ne méritaient pas de sortir. Je dis qu'on est un petit peu dur contre eux parce qu'eux, ils ont raté un seul match et ils ne sont pas là. L'Espagne en face a réussi un seul match.
Non, c'est faux, Stéphane. L'Espagne n'a pas réussi un seul match contre l'Allemagne.
Pas tous en même temps.
À la 73e minute, ils sont éliminés puisque le Costa Rica mène de l'autre côté.
Ouais.
Et donc, ils sont éliminés. Et c'est l'Allemagne. Il y a Costa Rica et Japon qui passent.
Ouais, ouais, ouais.
Ils ont eu, Et grâce à l'Allemagne, l'Espagne aujourd'hui se retrouve en quart de finale.
Oui.
Oui, après moi, ce que je disais, bah, c'était que Espagne. Non, Espagne, ils ont joué deux bons matchs. Oui. Ils ont joué deux bons matchs, l'Espagne. Ils ont joué deux bons matchs. Ils ont joué un. Le dernier match, il avait peu d'importance parce que, voilà, même s'ils auront pu être éliminés, ils étaient éliminés. Virtuellement pendant
les deux
minutes.
Équipes perdent contre le Japon.
Voilà.
Oui, alors c'est
mais
ça
voilà,
que j'ai envie
les deux
de poser
équipes
à...
perdent contre le Japon.
À Noël.
Et après, sur, je voulais revenir aussi sur le ballon. Même moi, j'ai vu le ballon. Pour moi, le ballon est sorti. Mais jusqu'à aujourd'hui, la VAR ne dit pas qu'il y a eu une faute de l'arbitre ou quoi que ce soit.
Oui,
ils disent
aussi,
que la puce, ils disent que la puce dans le ballon fait que le ballon, comme il était en train de tourner, le haut du ballon était
morfler
la ligne de même pas 5 cm. Du coup, ils disent même pas qu'il y a eu une erreur. Ils disent que voilà, l'arbitre a fait ce qu'il fallait faire et qu'il n'y a pas eu d'erreur. Du coup, voilà. Après, moi, la VAR, je suis pas trop fan de la VAR, mais en tout cas, sur ce coup-là,
je pense qu'en Allemagne, ils disent pas ça non plus. Ils se sont quand même pas mal jetés sur Flick et sur les joueurs allemands. Bah, ils ont été très, très critiqués. Ça a été très, très mal perçu. Je pense que s'ils étaient si certains que ça, que la balle n'était pas sortie, ils dénonceraient tous une injustice. Donc, je pense que. Effectivement,
L'Espagne en premier.
Ouais.
L'Espagne moi, en premier,
pour,
je pense.
Moi, je suis pas pour. Moi, je suis pareil. Je dis effectivement. Je constate juste, c'est juste, le Japon méritait, des quatre, c'était ceux qui méritaient le plus de passer, même s'ils ont perdu contre le Costa Rica. Non, mais dans le groupe, ils perdent contre le Costa Rica. C'est quand même la grosse surprise de ça. Mais après, si tu veux, voilà, bon, ça passe, c'est vraiment très peu de choses. Je veux dire, l'Espagne, on a encensé l'Espagne en disant, voilà, moins maintenant, peut-être, on n'en fait pas les favoris face au Maroc, mais on les a encensés partout. Alors que finalement, ils gagnent un match. Bon, ils ont gagné 7-0. 7-0. Et l'Allemagne a gagné 4-2. Voilà. Bah, le problème, il est là. Quoi. C'est que Navas s'est trouvé 6 fois contre l'Espagne. Et puis seulement. Et puis il a été bon contre l'Allemagne.
Oui, alors, Noël, c'est pas la surprise quand même de voir le Japon finir première de cette poule. Eric l'avait annoncé. Hein.
Alors, j'avais pas annoncé qu'il finirait
premier.
Oui,
mais enfin, que.
Mais par contre,
j'irais loin dans la compétition.
Je les voyais se qualifier.
Oui.
Je les voyais sortir de ce groupe.
Oui.
Parce que réellement,
on voit le match qu'ils ont fait aujourd'hui contre la Croatie, se dit que ils méritaient leur qualification. Hein.
Totalement.
Oui. C'était un super match.
Oui.
Et on en revient à ce que disait Guy par rapport au penalty. Le penalty est quand même un exercice technique. Et quand on arrive en fin de prolongation et qu'on a plus de carburant.
Eh oui, émotionnel sur un instant T, ouais.
Ouais, et puis je pense
voilà. Et ils avaient plus de carburant. Ils étaient cuits, ils étaient à plat, etc. Ils n'avaient plus la lucidité, ils même plus la technique.
Je pense qu'ils sont pas aussi, ils sont pas au niveau pour les pénalties. C'est ce que je disais en hors antenne quand on était tout à l'heure à la fin des pénalties. C'est-à-dire que moi je les voyais avec une grosse chance en prolongation. Parce que toujours avec leur envie de jouer et ce qui fait le jeu du Japon et on va le voir aussi avec la Corée ce soir, même si effectivement ils ont gros à jouer contre une grosse équipe, mais comme je le disais au début des poules, la Corée c'est pareil, les équipes asiatiques ils jouent avec le cœur, ils jouent pour la nation, ils ont un football qui commence à monter en régime et en technicité. Après effectivement sur les pénalties, je pense qu'ils n'ont pas la capacité.
Et Noël, je te coupe deux secondes à propos. Noël, deux secondes à propos du match justement dont on parlait. Neymar est titulaire, pour ceux qui nous écoutent et que ça a intéressé. Je n'en doutais pas une seconde parce que quand tu reviens d'une entorse à la cheville, où tu peux jouer ou tu peux pas jouer, hein, c'est pas comme un problème. Donc ouais, Neymar est titulaire ce soir et c'est la grosse équipe.
Comme ça, ils vont nous le bouffer pour le Paris Saint-Germain.
Voilà.
On verra si c'est la grosse équipe.
Ouais,
on verra si c'est la grosse
sur le papier, équipe, sur le papier, c'est la grosse équipe.
Neymar à 50%, c'est pas un cadeau. Enfin, on verra.
Bon.
Je veux en revenir au penalty.
Oui.
On clôturera là-dessus. Vous allez remarquer que dans les frappes des penalties, souvent les gardiens arrêtent parce qu'ils sont ras du sol. Et vous remarquerez aussi que quand les penalties sont tirés à mi-hauteur, le gardien a pratiquement aucune chance de les arrêter. Moi, c'est ce que je demandais à mes joueurs quand on arrivait à une séance de tir au but en Coupe de France. Je leur disais, écoutez, je préfère que vous tiriez au-dessus, mais tirez-le à mi-hauteur. Et souvent, on s'entraînait à tirer les penalties à mi-hauteur parce que justement, le gardien l'a encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est obligé d'avoir les pieds sur la ligne. À mi-hauteur, il n'a aucune chance. Et voilà, et c'est vrai que tous les pénaltys, bon, ça n'enlève rien à la qualité du gardien croate, hein, qui a été super, mais ont été attirés à du sol, et c'est ce qui permet au gardien de briller.
En tout cas, Noël, le continent asiatique est un des grands vainqueurs de ce mondial avec la Corée du Sud, quoi qu'il arrive face au Brésil tout à l'heure. Et puis donc le Japon éliminé, donc on l'a dit, en huitième face à la Croatie, un partout, et puis battu au tir au but 3-1.
Ouais. On espère que ça sera Brésil-Croatie, mais...
Oui. Non, mais c'est vrai que c'est quand même c'est parmi...
Ces diables de Coréens, oui. Ils sont capables de nous faire un match exceptionnel ce soir. Ouais.
Mais c'est vrai que parmi les grandes équipes de ce mondial, le continent asiatique, avec ces deux équipes, leur grandit quand même.
Oui, c'est vrai que le Sénégal... raté complètement son match contre l'Angleterre, ou c'est l'Angleterre qui a vraiment bien joué le coup en faisant le dos rond, en endormant un petit peu le match, et sur les seules actions qu'ils ont eues, ils ont pu dire le Sénégal. Après, le continent africain, on va espérer qu'il va être représenté avec le Maroc demain contre l'Espagne, et qu'ils vont faire un sacré exploit. Sinon, si l'Espagne arrivait à battre le Maroc, on n'aurait plus de représentants
du continent africain. Alors que le continent asiatique, lui, sort quand même grandi de ce mondial.
Je pense qu'ils vont encore progresser là-dessus.
Alors justement, on parlait du Maroc. Eh bien, dans le groupe F, ils ont fini en tête avec 7 points. C'est l'autre grande équipe qui était un petit peu inattendue. Hein, devant la Croatie, deuxième, 5 points. Troisième, la Belgique. Un des grands éliminés avec 4 points. Et quatrième, donc le Canada, 0 points, on en a parlé. Hein. On rappelle que Croatie-Belgique avait fait 0-0 et que le Maroc s'était imposé devant le Canada 2-1. Belle équipe, le Maroc. Elle peut déjouer tous les pronostics contre l'Espagne.
Tout va dépendre de demain. Ouais. Si demain, ils font l'exploit de battre l'Espagne, alors tout est permis.
Oui.
Tout est permis.
La dynamique, quoi.
À ce moment-là, il ne reste plus que deux matchs. Il reste plus que deux matchs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les huitièmes de finale. Il restera quart de finale et une demi-finale. S'ils battent l'Espagne, il restera deux matchs avant d'aller à la finale. Donc, pour le Maroc, c'est vraiment un test, je dirais presque grandeur nature. C'est le test du siècle pour eux. Il faut battre l'Espagne à tout prix et ils ont le vent en poupe. L'Espagne, avec toutes les interrogations que vous avez eues, je vous ai écouté et vous aviez raison d'avoir ces interrogations sur l'Espagne. Est-ce qu'on va avoir l'Espagne du Costa Rica ou est-ce qu'on va avoir l'Espagne du Japon? Est-ce qu'il va garder un avant-centre avec Morata ou est-ce qu'il va jouer comme sans avant-centre pour être champion du monde comme en 2010? Moi, je pense que le fait de ne pas mettre d'avant-centre, c'est quand même un sacré désavantage pour cette équipe. Bon, on va voir, et puis si ça peut faire l'affaire du Maroc, qu'il n'en mette pas, comme ça le Maroc sera quart de finaliste.
Alors l'éliminé de ce groupe F, c'est la Belgique. Bon, c'est fait, hein, c'est fini, hein, cette génération, qui finalement sera passée à côté de tout.
Ouais, et ils ont raté leur match contre la France il y a 4 ans, sincèrement, ils étaient vraiment bien, ils étaient même plus forts que nous, faut pas se cacher les yeux, ils étaient plus performants, ils étaient plus toniques, ils étaient plus techniques, ils étaient bons, ils étaient enthousiastes et tout. Et avec le but sur corner de Umtiti, on leur a coupé les jambes. Et puis voilà, ils ont 4 ans de plus. Et malgré tout, je ne sais pas si vous vous rappelez ces derniers matchs, dans les dernières minutes, si Lukaku rate pas l'immanquable, il passe.
Oui, mais on sait bien que... Ça joue toujours un peu de choses. Hein.
C'est vrai qu'ils ont raté tous leurs matchs, mais ils ont aussi, effectivement, quand tu t'en parles, Noël, là, donc je suis même pas sûr que Lukaku était capable de jouer cette Coupe du Monde. Je sais pas, mais
on peut expliquer
ce qu'il rate. Donc c'est quand même un genre énorme. Et puis il y a aussi un autre qui a eu, de façon assez incroyable et presque risible, le trophée d'homme du match, c'est De Bruyne. Quoi. De Bruyne, ce qu'on a vu, De Bruyne, il est passé complètement à côté de sa Coupe du Monde. Lui, c'est quand même un des 5, quoi. Quasiment à chaque fois, on parle de lui comme un des 5, 10 meilleurs joueurs du monde. Quoi. C'est extraordinaire. Quoi. Moi, il est passé complètement sans aucune influence parce qu'ils ont quand même le plus grand gardien, en tout cas avant cette Coupe du Monde, sur le papier, celui qui est le plus grand gardien quasiment en Europe aujourd'hui, et pas seulement par la taille. Et donc, ils avaient des choses solides à faire valoir. Et c'est vrai que peut-être l'erreur, alors on a parlé, peut-être qu'il a fait, Martinez, l'erreur que Deschamps n'a pas fait, c'est-à-dire que lui, il a gardé Lukaku dans son groupe, à le mettre, alors que Deschamps n'a pas finalement gardé ou. en tout cas attacher solidement Benzema à l'équipe de France pour qu'il se remette et qu'il joue un petit peu. Il semble que ça a été le cas pour Lukaku qui est rentré un quart d'heure, 20 minutes. Le match où il perd, il rentre un quart d'heure de la fin.
C'est pas pareil, excuse-moi, mais c'est pas pareil du tout, Stéphane. C'est pas pareil. Tu peux pas comparer Benzema avec l'équipe de France que Lukaku avec
la Belgique.
Un truc qui est simple de toute façon, on a vu les matchs sans Lukaku, ça n'a rien donné. La meilleure solution, c'était de faire jouer Lukaku. Mais même s'il était sur une jambe, la meilleure des choses, bah moi je te le dis, la meilleure des choses, je pense que la meilleure des choses, ça serait.
Non.
Il y a qui en attaque en
Je sais pas, moi j'ai
on
vu.
On voit bien, Kevin De Bruyne, il est passé à côté de sa Coupe du Monde.
Je vais vous réconcilier tous. Batshuayi.
Mais il est pas bon, Batshuayi, excuse-moi. Mais non.
Oui, excuse-moi.
Ça, on est d'accord.
8 fois en jeu. Sur 10 ballons qu'on lui a donnés dans le deuxième match. Alors, quand on a un joueur comme ça et qui fait devenir fou toute l'équipe, vaut mieux faire jouer Lukaku sur une jambe qui ne court pas que mettre. Voilà. Mais alors, à ce moment-là, s'il avait une autre solution.
Non, moi, je ne partage pas cet avis. Je ne connais pas assez les méandres du foot belge pour savoir qui pouvait jouer. Mais justement. Excuse-moi, mais c'est un peu comme si avant la Coupe du Monde, tu disais Kanté, Boatille et tout, mais c'est quand même le meilleur. Ce qu'on disait tous avant, on était tous inquiets en disant on n'a pas de milieu. Notre ami Jérôme Rotten, il avait même dit on a c'est le pire milieu de terrain que j'ai jamais vu en équipe de France. Donc on aurait pu aussi avoir cette tendance de dire Kanté, même Boatillant, je dis un peu n'importe quoi. Parce qu'il...
Mais non, parce qu'on a d'autres ressources. On a
Lukaku,
on a Aurélien Tchouaméni, on a d'autres
ressources. Excuse-moi,
tu connais en attaque belge, t'as quoi?
Mais moi je vais te le donner.
Tu connais pas le foot belge mieux que aussi bien que le foot français, c'est pas possible. Donc je veux dire, on sait pas. Moi j'ai vu, il y a un match, je me rappelle plus lequel, je crois que c'est le troisième match de poule, ou le deuxième peut-être. Il rentre à un quart d'heure de la fin. Je pense qu'il a pas une seule passe de ses partenaires. Il y a un truc qui va pas en plus avec Lukaku dans le groupe. Est-ce que les gens, est-ce que peut-être aussi il ressentait que il avait rien à faire là parce qu'il était pas au niveau physique et qu'on l'a mis. Moi, je pense, on en parle tous des valeurs collectives du groupe et tout. Je suis d'accord avec toi pour Batshuayi. Il y a aucun problème.
Eric va nous donner la solution.
Non, mais j'en sais rien. Je sais pas.
Solution. Mais c'est pas l'équilibre, c'est pas déjà est-ce que j'ai la solution ou pas, mais le côté c'est que le seul point c'est pas le côté de l'attaquant
Lukaku
ou pas. Le côté c'est que l'erreur de Martinez, c'est que sur le banc de touche, il a une nouvelle génération et une nouvelle génération qui est bonne. Doku en défense tête, en milieu de terrain de Cateller qui joue en Italie et qui est très bon. Et Openda en attaque.
Voilà, Openda.
Mais bien sûr, mais largement.
Openda.
Mais Lukaku sur une jambe, moi je mets Openda titulaire. Mais je peux te dire, tu verras.
Okay.
Mais tu verras. Elle a dit juste une chose. Juste, je te dis pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Avec
non.
Ça. Mais tu sors de groupe avec ces joueurs-là, alors qu'avec des hasards, qui n'a pas joué que depuis 6 mois. Avec des Kevin De Bruyne qui est fantomatique.
Tu fais jouer le premier match.
Mais après, tu te dis, c'est pas possible, il est pas là. Mertens, il a 35 ans. Mertens, il est carbo complet. Tu fais jouer des joueurs où tu savais déjà sur le papier que tu sortirais pas d'épaule.
Mais bien sûr, mais Eric, je défends pas Martinez. Tu vois, sur ces points-là, je te l'accorde. Openda, Openda, il m'était sorti de la tête. Honnêtement, c'est pas parce que Openda il a fini avec un triplé avec Lens, il arrivait même pas à être titulaire avec Lens.
Il est bon.
Tellement il était en train de peiner. Franchement,
ça c'est le management de Franquès. Tu peux pas dire ça. J'ai regardé tous les matchs, il a marqué beaucoup de buts. Sotoka, il le met sur le banc, il sort ses meilleurs joueurs. C'est rien à voir. Il met pas forcément le 11 des meilleurs joueurs sur le terrain. Il fait le meilleur collectif.
Dans 4 ans, elle a dit Openda avec l'équipe de Belgique. Et tu verras, on en reparlera.
Ah non, moi je te dis pas qu'Openda ne sera pas bon ou quoi que ce soit, mais je te dis juste, en tout cas, dans la solution où tu as un Batshuayi qui ne fait pratiquement rien et il a eu une occasion. Bon, il a marqué un but, mais sur au moins je sais pas combien d'occasions. le premier match, à part ça, sinon fantomatique. Il n'est pas bon, que ça soit dans le jeu ou dans le truc. Mais je suis pour qu'ils mettent la jeunesse partout. Mais Kevin De Bruyne, par contre, sur ce point-là, je suis tout le temps d'accord. Tu le mets tout le temps titulaire.
Ouais, ouais.
Je te le dis, sur ce point-là, en tout cas. Même s'il n'est pas bon, tu le mets titulaire.
C'est là, je peux me permettre de te dire que je fais la comparaison avec l'équipe de France. C'est-à-dire que si jamais Lukaku, par exemple, n'est pas dans le groupe de la Belgique pour cette Coupe du Monde, s'il n'est pas pris dans le groupe de la Belgique, et ben, voyant Batshuayi être mauvais, il n'a qu'une seule solution, c'est de mettre Openda, de le mettre. Il n'a pas d'autre solution. Ouais, là, il essaye autre chose. Je ne dis pas, je ne suis pas un dieu du foot, ni dans le vestiaire de ce qui se passait. Il essaye quelque chose. Et honnêtement, Noël, c'est à toi que je m'adresse en tant que plus spécialiste. Est-ce que tu penses que Lukaku a joué ne serait-ce que à 80% de son niveau?
Même pas.
On joue une Coupe du Monde.
Lukaku, en plus, il perd la qualification parce qu'il a deux occasions qu'il n'a plus qu'à les pousser au fond. Il n'y était pas. Mais il y a quelque chose, nous, on discute sur ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Après, il y a ce que l'entraîneur fait et ce que l'entraîneur ressent. Par exemple, j'ai appris que le joueur qui était le plus sollicité par Didier Deschamps pour passer ses consignes, c'est Raphaël Varane. Moi, je ne sais pas si Roberto Martinez a pas un relais avec Lukaku et une confiance avec Lukaku qui lui permet de faire passer ses messages. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. Maintenant, sur la valeur, sur ce qu'ils ont montré, et Batshuayi et Lukaku, ça a été catastrophique. Et c'est pour ça que la Belgique est éliminée, tout simplement. Ouais, elle valait mieux mettre le jeune, hein, comme tu disais.
Après, moi je voulais un peu parler d'un truc, parce que depuis hier, on parle du jeu, on parle des joueurs, etc. Quand on s'est regardé, on s'est tout de suite compris. Je pense qu'il y a un véritable malaise quand même.
Ça se voit, c'est ce qu'il veut dire. Oui, oui,
ça c'est sûr.
Avec leur embrouille, soi-disant leur embrouille dans les vestiaires, ils ont des embrouilles entre eux, dans leur vie privée.
Dès la fin du premier match, on a senti des tensions. On en a parlé la semaine dernière. Il y a un problème de constitution du groupe. Lui n'a pas fait des choix forts. Il est là depuis très longtemps, comme Deschamps aussi. Deschamps a décidé de faire des choix que lui n'a pas pris et n'a pas pris ses responsabilités à ce moment-là. Il a préféré prendre des joueurs blessés. Bon, c'est vrai que Lukaku, c'est leur meilleur buteur. C'est quand même quelqu'un qui est ultra décisif avec la Belgique, en tout cas pour les qualifs, etc. Mais au-delà de ça, on voit les tensions internes. On voit que les joueurs ne s'entendent pas. Donc à un moment donné, il faut trouver le bon mélange. Et lui s'est appuyé sur des cadres qui sont là depuis très longtemps, voire trop longtemps, certains. Et il n'a pas fait ce renouvellement qui a permis de constituer un groupe vraiment qui a envie d'aller ensemble à la guerre.
Oui, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une génération.
Thierry Henry, il sera quoi là-dedans?
Il entraîne les attaquants, mais c'est pas lui qui fait le groupe.
Ah bah oui.
Peut-être qu'il a son mot à dire, mais...
Mais vous voyez...
Il a peut-être son mot... Voilà, il a son mot à dire. Moi, j'entraîne les attaquants. Si je vois que le jeune, il est meilleur que les deux autres, je vais dormir devant la porte du coach si je suis adjoint. Et je lui dis, il faut que tu mettes ce gars-là, parce que je suis sûr que ce gars-là, j'ai la conviction que ce gars-là va faire mieux que les deux autres.
Mais vous touchez un point qui est réel, parce que beaucoup d'observateurs ont sorti le fait que, effectivement, Thierry Henry, ce que l'on a vu à la Coupe du Monde 2018, et son rôle, et comment il était à la fois sur le terrain, en avant-match, à la mi-temps, sur le banc, toutes ses réactions, comment il était, sans prendre la place du coach, mais où on voyait qu'il était dedans. Là, on l'a vu transparent, il était sur le banc de touche, avec sa bouteille, il regardait le match, il faisait rien, il était impassible. Réellement, je pense qu'il n'était pas du tout...
Je pense que si c'était un bon coach, Thierry Henry, on le saurait, à mon avis.
J'ai pas dit coach. Non, j'ai pas dit coach.
Non, mais ça fait partie, je suis désolé, c'est brutal ce que je dis, effectivement. Mais effectivement, c'est peut-être plus facile de coacher l'équipe de... Quoi, de coacher, d'aider quoi le coach que, dans que. L'équipe de Belgique de 2018 que quand ça va mal, effectivement, où il y a peut-être des décisions, une intrusion, ou alors peut-être que c'est dans les relations avec Martinez.
Moi, je pense qu'à l'intérieur, ça vivait tellement mal que je pense qu'il n'avait pas de capacité de faire quoi que ce soit.
En tout cas, on voit... Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit peut-être à... Moi, je suis le premier, j'aurais été le premier à dire je veux qu'on garde Benzema, on va le retaper, on va le remettre, on va machin. Et finalement, Deschamps, Deschamps a pris, visiblement, on connaîtra jamais vraiment les tenants, les aboutissants, les discussions qu'il y a eu, mais Deschamps, il a pris la décision, ils ont pris la décision, Benzema a dit que c'était lui, ou plus ou moins, je préfère partir pour éviter tout ça et tout. Il est parti, il n'est plus là, il y a une équipe, il y a un jeu à faire sans lui. Je dis juste, sans être à l'intérieur, que peut-être, peut-être, ça a créé encore d'autres tensions, cette idée de Lukaku. Et peut-être que sur la dernière demi-heure du match, là, quand il ira tous, il fait rentrer Openda ou Doku en le mettant plus en pointe, ou je ne sais pas. Il y a peut-être des astuces à trouver.
Franchement, Stéphane, moi, je pense qu'on
n'y est pas... Quand je suis Thierry Henry,
oui,
et que j'étais un des meilleurs joueurs au monde, que j'entraîne les attaquants, et que je suis l'adjoint de Martinez, je ne peux pas rester stoïque, passif sur le banc, à boire ma bouteille d'eau sans rien dire, sans rien faire. Et alors, il y a deux solutions. Ou c'est Martinez qui lui a dit « je ne veux plus te voir comme ça, tu restes à ta place », ce qui est possible. Ou il a une ambition, peut-être prendre la place de Martinez. Et à ce moment-là, il a fait celui qui ne cautionnait pas.
C'est ce qui arrivera sûrement.
Voilà, celui qui ne cautionnait pas les décisions de l'entraîneur. Mmh. Et voilà. Il n'y a pas 36 solutions. On lui a dit ou tu restes à ta place, ou c'est lui qui s'est positionné.
Tu crois sincèrement qu'il va être nommé, qu'il peut être nommé coach de la Belgique ?
Si, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais par contre, la question, on a vu qu'il était très proche de Thierry Henry.
Moi, je pense pas non plus.
Sur ce qui se dit en Belgique, c'est ils sont plus à prendre. Ils sont plus à prendre. Alors, Prudhomme, je sais pas, mais ils sont plus à prendre un coach belge et à revenir sur quelque chose.
Ça pousse beaucoup, beaucoup en Belgique pour Michel Prudhomme.
Moi, franchement, je pense qu'on n'y est pas du tout. Comparer l'équipe de France avec la Belgique, on n'y est pas du tout.
On parle de management.
Oui, mais même en termes de management, on n'a pas les mêmes joueurs. Que ça soit dans l'autre ou dans l'autre. Et même l'équipe B de l'équipe de France, actuellement, est plus forte que la Belgique. Que l'équipe... Ah non, mais sérieusement, on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas les mêmes trucs. Bah si, parce que vous comparez, vous dites, mais il prend pas Benzema, il prend truc. Il a Kylian Mbappé devant, il a Ousmane Dembélé, il a Giroud. C'est normal que la décision n'est pas aussi grosse.
Si.
La décision n'est pas aussi grosse. Il ne faut pas oublier que Lukaku, comme on a dit, il y a des clashs entre les joueurs. Et moi, j'ai vu plusieurs articles qui sortaient et comme quoi Lukaku calmait les tensions. Lukaku, c'était celui, quand il parlait dans le vestiaire, tout le monde l'écoutait, même quand il jouait pas. Ouais. C'est pour ça que le coach le prend dans le groupe.
C'est sûr, on l'a vu.
Déjà, dans un premier temps.
Sûr, on l'a vu, il a calmé tout le monde, tout s'est bien passé, tout a été nickel.
On n'a pas dit ça, mais ça aurait pu dégénérer. On a vu avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne en conférence de presse, qui se lançait des pics comme ça.
T'as raison, effectivement, de dire, c'est juste de dire, et c'est tout à fait vrai, que t'as plus de facilité à dire à Benzema, bah écoute, même si t'es Ballon d'Or et tout, à pas aller au bout du truc en disant on va essayer de tout faire pour que tu joues à Benzema quand t'as Mbappé, Giroud et Dembélé, que effectivement quand t'es peut-être en Belgique où il a pas cru.
Maintenant, t'as Openda et Batshuayi.
Maintenant,
excuse-moi, mais Openda il a jamais rien.
Oui, mais là on parlait des attaquants.
Ça c'est mettre une pièce.
Moi, juste la comparaison que je faisais, à la limite peut-être que la comparaison elle est plus valable pour ou les défenseurs ou les milieux de terrain.
Oui, je dis pas le contraire sur
terrain,
ça.
Moi le premier en début de Coupe du Monde.
Je ne dis même pas le contraire.
T'as un peu la pétoche quand tu te dis moi je rassure un peu, mais en tout cas les milieux de terrain défensifs qu'on avait, t'as un peu, tu te dis un peu quand même, c'est sûr. Du troisième, quatrième choix. Est-ce que et bon voilà. Maintenant,
moi ça m'a étonné que le Canada ne batte pas la Belgique.
T'as raison.
Franchement, s'il n'y a pas Thibaut Courtois au goal qui arrête le penalty, etc. Franchement,
mais il restera quand même une énigme. Peut-être que c'est les relations internes.
Oui.
Il restera une énigme, c'est quand même De Bruyne, quoi. Parce que De Bruyne, c'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable.
On va revenir à quelque chose que vous avez tous dit et que vous ne savez peut-être pas. Quand Benzema se blesse à l'entraînement, il va faire une échographie, il fait un scanner, il fait tout ce qu'il faut, et le diagnostic est 15 jours d'arrêt total. 15 jours d'arrêt total, ça a porté au 12 décembre, d'accord ? Le 12 décembre, il restait 6 jours de compétition. Ça veut dire que il aurait fallu qu'en 6 jours, on l'entraîne comme on pouvait, avec la possibilité d'aller trop vite et de rechuter. Donc à ce moment-là, et Benzema et Didier Deschamps, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème, ont décidé que c'était mieux de faire partir Benzema à Madrid dans sa famille, parce que le diagnostic disait, tous les diagnostics, ils ont fait plusieurs diagnostics, disaient qu'il y avait 15 jours d'arrêt avant la remise en route.
D'accord, bon, on va en parler de l'équipe de France, Noël, dans la deuxième partie de notre émission. Bon, la Belgique, il va falloir tout reconstruire. Bon, dans le groupe G, donc le Brésil, 6 points premier, plus 2, la Suisse deuxième, 6 points plus 1, troisième le Cameroun, donc 4 points. Quatrième la Serbie, 1 point. On va rappeler que le Cameroun a battu le Brésil 1-0 et que la Suisse a battu la Serbie 3-2. Ce qui fait qu'il n'y a aucune équipe à 9 points quand même sur l'ensemble de ce mondial. Puisque le Portugal avait aussi été battu par la Corée du Sud 2-1. Et donc dans le groupe H. Ça c'est une particularité aussi.
Oui, mais ben, je pense que les équipes qui étaient pratiquement qualifiées, comme l'Espagne, le Portugal, la France, n'ont pas voulu émousser leurs joueurs et ils ont pris des décisions de jouer les gaquettes sur le banc. Le Brésil, pareil. Donc, moi, pour moi, ça me choque pas. Mmh. J'ai entendu Jacques Vendroux qui disait que c'était une erreur. Moi, je ne pense pas du tout que c'était une erreur, même si j'aime beaucoup Jacques. Mmh. Mais non, je pense qu'il fallait faire reposer tous ces gens-là. Et le fait même qu'il y ait un garçon comme Giroud qui a 35 ans et qu'on le sorte à 20 minutes de la fin, que c'est vraiment une gestion intelligente de la part de Deschamps. Mmh.
Voilà. Donc dans ce groupe, la Suisse deuxième, bon, c'était envisageable par rapport au Cameroun ou à la Serbie.
La Suisse, c'est une sacrée équipe.
C'est difficile à jouer, quoi.
C'est une équipe d'emmerdeurs. Voilà. Cette équipe-là, tu penses que tu l'as bien en main, que tu l'as trimballe et tout, et puis ils sont capables de te placer une accélération. Et puis d'un coup, ils vont te faire du pressing haut, tu n'arrives pas à te sortir de tes 30 mètres. Et puis après, ils redescendent bas avec leur super gardien qui fait toujours des arrêts miracles, etc. C'est l'équipe, avec la Croatie, c'est l'équipe la plus chiante à jouer. Voilà.
D'accord. Eh ben, en tout cas, ils vont jouer le Portugal, hein, qui a fini donc premier de son groupe H avec 6 points. Devant, on en parlait tout à l'heure, la Corée du Sud, 4 points, mais 0, mais donc au goal average. L'Uruguay, 3e, 4 points, 0 au goal average, mais seulement 2 buts, alors que la Corée du Sud avait marqué 4 buts. Et 4e, donc le Ghana, 3 points. Dernier match, hein, le Ghana battu par l'Uruguay 2-0. L'Uruguay, c'est une des déceptions aussi qui pouvait passer dans la poule.
Non, c'est une équipe vieillissante. Ouais. Là aussi, on aurait dû peut-être prendre des décisions. Mais c'est très difficile.
Ouais.
C'est difficile à dire à Cavani, tu restes à la maison. C'est difficile à dire aux anciens qui ont fait l'histoire du pays, qui ont fait l'histoire de cette équipe nationale, de leur dire, il y a une Coupe du Monde, tu restes à la maison. Moi, je vais partir sur une équipe de jeunes. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus critiqué s'il avait fait ça et qu'il était éliminé qu'en prenant les anciens. C'était leur dernière Coupe du Monde. Bon, ils n'ont pas été brillants, l'Uruguay, en perte de vitesse, et il y a besoin de reconstruire tout ça.
Après, on pouvait les prendre pour faire le maté dans le vestiaire, ça aurait pu être bien. Ouais, non, mais c'était bien. Ouais. Mais au bout d'un moment, il y a le côté. On entend toujours ça, c'est-à-dire c'est toujours difficile, c'est toujours difficile. J'ai l'impression qu'en fin de compte, les sélectionneurs. Et vous êtes bien placé pour le savoir, Monsieur Tosi, parce que vous avez cette expérience là. Mais je trouve que à chaque fois on minimise. Je pense qu'effectivement on manque de plus en plus quand on arrive sur des grosses compétitions. Là, on l'a vu aujourd'hui, il y a encore une polémique sur. Je sais pas si vous avez entendu aujourd'hui, puisque vis-à-vis de ce que Ronaldo a dit sur le sélectionneur en sortant du dernier match. Parce qu'il sortait à 20 minutes de la fin. Aujourd'hui, le sélectionneur a remis un peu l'église au centre du village. Et au bout d'un moment, quand on est sélectionneur, on n'est pas sélectionneur pour faire plaisir à la population. On n'est pas sélectionneur pour faire plaisir à des joueurs qui ont des états d'âme. Au bout d'un moment, il faut savoir prendre. Et on le voit avec Martinez. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne prend pas de décision. On joue le fait que, on vous dit au revoir. Et puis tant pis, et puis après, vous inquiétez pas que les joueurs à qui il a fait, Lukaku, il n'enverra pas un SMS à son anniversaire, à Martinez, dans 2 ans. Hein. Réellement, il s'occupera plus de lui. Donc au bout d'un moment, il faut aussi penser à l'équipe, au pays et aux choix à faire.
Attends, c'est très 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 intéressant ce que tu dis. C'est très 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 intéressant. Et on va faire un parallèle avec Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Quand il y a eu les matchs de Champions League, qu'est-ce qu'il a fait Christophe Galtier? Il est allé voir Neymar, il lui a dit, écoute, comme on a un match tous les 3 jours, je vais te sortir à la 70e minute ou je vais te faire rentrer en deuxième mi-temps. Il est allé voir Mbappé, il lui a dit, écoute, je sais que tu aimes jouer, mais pour que tu sois performant dans le match contre Benfica, etc., je vais te sortir à la 60e minute du match de championnat, etc. Donc, est-ce qu'aurait peut-être dû faire le sélectionneur du Portugal par rapport à Ronaldo? C'est qu'il aurait peut-être dû convenir avec lui, qu'il allait le sortir pour éviter toute cette polémique. Mais on va revenir à ce que tu disais qui était fort intéressant, c'est qu'avant le début de cette Coupe du Monde, Ronaldo ne faisait pas même plus l'unanimité dans son pays, puisqu'il y avait plus de, je crois que c'était 50-50 à dire qu'il fallait rattaquer avec des jeunes, et 50-50 qui disaient qu'il fallait rattaquer avec des anciens. Ils n'ont pas eu le temps de préparer cette Coupe du Monde. Ils n'avaient qu'une seule semaine, donc ils se sont accrochés aux anciens avec Ronaldo. Surtout que c'était le dernier challenge de sa vie et par rapport à ce qui s'est passé à Manchester. Mais je pense que certains joueurs doivent avoir un statut particulier avec le sélectionneur. Et le sélectionneur doit être hyper intelligent. Quand il fait quelque chose comme ça, il doit le régler à l'avance avec la star de son équipe. Je veux dire, on ne traite pas les stars comme on traite un joueur normal.
Bon Noël, on va marquer une petite pause. Après, je voudrais qu'on aborde quand même l'équipe de France. Hein. Ok ?
Ouais,
allez, on marque une petite pause avec l'EFA Metaverse et puis on revient, on va parler de nos bleus parce que voilà, y a une équipe de France en quart de finale, donc hein, on parle de nos bleus d'ici quelques minutes.
Le ciel est noir, Metaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voiler la face, mais ça reste, ça reste la même merde toi. Tu deviens leur kleps, métalef. Et tu te noies dans la paresse. Fin des temps, nouveaux signes apparaissent. Le ciel est noir, à quoi s'attendre en cadaverse. La vie te consomme, c'est pas l'inverse. Mon cœur est noir, va laver. Noir et dur, comme si j'aimais pas la vie. Ça me parle politique, je fais comme si j'avais pas d'avis. Et je marche tout seul comme si j'avais pas d'amis. Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voiler la face, mais ça reste la même merde toi. Tu deviens leur kleps, métalef. Et tu veux pas voir la vérité. Peut-être que les catastrophes naturelles sont méritées. De quoi nos gosses vont hériter. Si la terre meurt, qui va dire RIP? Pourquoi y'a des hommes au-dessus des lois? Puis quand encore, je devrais leur dire excusez-moi. Y'a ceux qui se croient encore au temps des colonies. Traînez-les sur la place publique, qu'on les nique. Et je me demande si j'ai le droit de dire ça, polémique. Y'en a qui disent bien pire, comme Eric. Je ferai pas de communiqué, je suis pas désolé. Loin de tout ça, je les vois en dézoomé. Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voler la face, mais ça reste la même merde toi. Tu deviens leur kleps, métalef. Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voler la face, mais ça reste la même merde toi. Tu deviens leur kleps, métalef.
Voilà, alors Noël, on va maintenant, après cette pause musicale, parler de l'équipe de France, hein, puisque les Français, on l'a vécu en direct hier sur Mon Paris FM, sont en quart de finale. Ils ont quand même fini premier de leur poule, malgré leur défaite contre cette équipe, j'allais dire bis, face à la Tunisie, 1-0. Premier avec 6 points du groupe, mais plus 3. Deuxième, l'Australie, un peu inattendu quand même, avec 6 points, moins 1. Troisième, la Tunisie, 4 points. Et quatrième, le Danemark, avec 1 point. Le Danemark qui a d'ailleurs perdu son dernier match contre l'Australie. Alors j'ai envie de dire, le Danemark, grosse déception. L'Australie, c'est un petit peu l'inattendu pour la deuxième place.
Oui, et apparemment, ils ont bien joué. Ils ont quand même bien joué.
Ils ont joué leur jeu.
Oui, ça laisse des regrets à la Tunisie parce que le match qu'ils avaient fourni contre l'Australie n'était pas un match sans. Et puis, moi, j'ai trouvé que l'Argentine a eu du mal, hein, parce que quand ils reviennent à 2-1 à un quart d'heure de la fin, ils se sont accrochés jusqu'au bout. Et c'est vrai que ils ont eu chaud aux fesses, hein, nos Argentins.
Oui, ils gagnent 2-1, mais c'est un match qu'ils peuvent gagner 3-0 quand même.
Oui, mais comme nous, on peut être mené 1-0 dans notre match de quart de finale contre la Pologne. On peut être mené 1-0 sans le double exploit de notre gardien et de Varane qui fait un grand écart pour sauver le ballon. Donc c'est le football, hein. Il faut savoir mettre les occasions au fond du but. Mmh. Le Sénégal a payé là aussi, oui, pour ça, puisqu'ils, oui, ont eu quelques occasions intéressantes, ne serait-ce que l'occasion sur le côté gauche où ils arrivent seuls devant le gardien, et encore avec des si, hein, si marque là, est-ce que c'est le même match? Ben, évidemment, oui, non, pas bien sûr, non.
Alors, comment vous la sentez cette équipe de France? Bon, on ne va pas revenir sur le match, le troisième match, non, perdu face à la Tunisie, tant mieux pour la Tunisie, hein, ça restera dans l'histoire, même si bon, il y a eu cette équipe où Deschamps a donc effectué 9 changements. Bien que, comme on disait Noël, à une certaine époque, ces matchs-là, on ne les perdait pas. Ou on gagnait, ou on faisait match nul, malgré tout. Hein.
Oui, mais c'est Stéphane qui avait la bonne analyse, parce qu'il disait que normalement, c'était déjà, on joue avec des remplaçants. Oui, mais quand on a fait rentrer les gens contre la Tunisie, c'était les remplaçants, des remplaçants, des remplaçants. Ouais. Aujourd'hui, on ne devait pas avoir cette équipe-là, on devait avoir N'Golo Kanté, on devait avoir Pogba, on devait avoir Umtiti, on devait avoir plein de monde. Et puis, ça n'a pas été le cas, on devait avoir Benzema. Bah. Mm-hmm. Donc, à partir de là, écoute, il a fallu faire rentrer les joueurs restants pour que, si jamais on a besoin dans une prolongation ou dans les matchs qui viennent, on aura besoin certainement de tout le monde. On va avoir besoin de tout le monde. Parce qu'on n'ira pas au bout avec cette équipe type. Hein. Ça va changer. Hein. Parce que physiquement, parce que les cartons, parce que les blessures, bien sûr. Bien sûr. Là, ça va commencer. Vous allez voir les Anglais. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite info qui circule. Il y a un journal anglais qui a pris Mbappé en photo et qui a mis comme titre, en anglais bien sûr, Gareth Southgate, prépare-toi à mettre 3 arrières droits contre l'équipe de France. donc déjà, il n'aime pas leur sélectionneur. Il n'aime pas, mais lui, il est là et ils ont fait un bon match finalement. Hein. Un match efficace contre le Sénégal.
Oui.
Tout le monde, moi, je me rappelle, je vous avais demandé à tous les pronostics avant le match et vous étiez partagés. Il y en avait la moitié qui donnait l'Angleterre gagnante d'un petit but, d'autres qui donnaient le Sénégal gagnant ou avec pour les prolongations, mais d'un petit but aussi.
Ouais, ouais, oui.
Et puis finalement, ça a été plus large que ça.
Ouais. Il y avait un monde d'écart, hein, 3-0. Hein. Il y avait un monde d'écart.
Ouais.
Ouais, ouais. Malheureusement,
pour
nos amis sénégalais.
Pour en revenir à l'équipe de France, c'est la question qu'on s'est posée tout de suite après le match dimanche soir. C'était, est-ce que cette équipe-là est la meilleure équipe de France, celle qui fait le plus beau football, que celle de 98 ou celle de 2018? Est-ce que c'est la meilleure équipe de France qu'on ait jamais eue?
Alors, on verra, elle paraît complète dans tous les compartiments quand même. Hein,
ça dépend aussi ce qu'on donne, la définition qu'on donne à meilleur, parce qu'on a gagné la Coupe du Monde en 2018, on avait donc la meilleure équipe.
Après,
on est
jugé sur les résultats.
Mais,
hein.
Après, sur les résultats, après, effectivement, parce qu'à ce moment-là, la meilleure équipe de France qu'on ait jamais eue, c'est 82. C'est peut-être l'équipe de France de 82 ou de 84. Qui elle a par contre à gagner. Maintenant, le jeu est peut-être mieux. Maintenant, je ne suis pas sûr que, par exemple, pour prendre ne serait-ce que la charnière centrale, Umtiti Varane en 2018, à leur prime, entre guillemets, les deux, c'était quand même énormissime. Hugo Lloris, à ce moment-là, perd le trophée du meilleur gardien de la Coupe du Monde uniquement sur son râteau raté en finale contre la Croatie. Donc il avait quasiment le meilleur gardien du monde, on avait la meilleure charnière centrale du monde, on avait elle est plus plaisante, c'est sûr, mais de là à comparer, par exemple, même s'ils sont énormes, je pense que le duo Rabiot Tchouaméni, ça vaut pas encore le duo Kanté Pogba, quoi, qui était stratosphérique, quoi.
Le côté Stéphane aussi, t'as raison, c'est-à-dire que déjà ça dépend des critères qu'on prend.
Exactement.
Et puis au-delà des critères, cette question, on pourra y répondre s'ils gagnent la Coupe du Monde.
Absolument.
Parce que s'ils gagnent pas la Coupe du Monde, réellement, je vois pas comment elle peut être meilleure que 98 ou 2018. Réellement, parce qu'elle l'aura pas gagnée. Donc parce que les équipes qui sont belles, moi ça me fait penser aux Belges en 2018, ça m'a énervé pendant je sais pas combien d'années. Oui, mais on a été meilleur sur le terrain. Oui, mais on a fait le plus beau jeu. Oui, mais t'as pas gagné. Je suis désolé. Enfin, un match, ça se gagne. C'est pas j'ai été le plus beau, j'ai fait la plus belle pirouette, j'ai fait le plus beau centre, j'ai fait les plus belles touches. Non,
Un match, ça se gagne, même si tu joues pas bien, si tu sais gagner, parce qu'il y a du mental. Le foot, c'est pas que de l'artistique, hein. Sinon, on jugerait avec des points comme au patinage. Non, c'est aussi du mental. Il y a des équipes qui vont gagner un match au mental et vont gagner une compétition au mental. Ils seront moins beaux à voir, mais l'important, c'est qu'ils ont été au bout. Et tout ça mis bout à bout, c'est ça qui fait qu'on est une bonne équipe.
L'exemple, c'est
Toute façon, si tu veux de l'artistique, tu prends pas Deschamps. Hein. De toute façon,
mais
on est tous
clairs. Moi, je valide.
Deschamps, c'est quelqu'un qui est pragmatique et qui n'a rien à faire du jeu. Tout ce qu'il veut, c'est marquer
et qui
gagne
des titres. Et qui gagne des titres.
Le symbole, c'est Dembélé Matuidi. C'est sûr que je pense qu'ici, autour de cette table, on préfère tous regarder un match de l'équipe de France avec Ousmane Dembélé sur un côté plutôt que Blaise Matuidi, même si moi c'est un joueur que j'adore, Blaise Matuidi, on préfère tous. Maintenant, comme le dit Eric, on verra le 18 décembre prochain qu'est-ce qui était mieux. Ça aurait été mieux d'avoir un Matuidi de l'époque, hein, on est bien d'accord, hein, de 2018 ou Ousmane Dembélé de 2018, quoi, c'est tout. Voilà, maintenant après, on il y a que les résultats.
C'était pas tout à fait ma réflexion. Enfin, au départ, c'était pas tout à fait ce que je voulais dire, même si je suis entièrement d'accord avec vous que un avocat, on lui demande pas de bien plaider, on lui demande de gagner un procès.
Exactement.
Oui, c'est vrai. Donc c'est pareil pour l'équipe de France. Mais ce que je voulais dire, c'est que si jamais on arrivait au bout avec ce style de jeu, ça serait absolument magnifique.
Ah bah oui.
Hein. Là, c'est vrai que l'équipe paraît très complète. Là, tout à fait. Et puis, ouais, très bien.
On aura les deux.
Et puis, avec un joueur d'exception, exceptionnel, Mbappé.
C'est peut-être ça qui va faire la différence.
Eh oui, c'est pour ça. Ouais.
Voilà, c'est ça qui va faire la différence. Et on espère que ça va être notre king à nous, hein, contre les Anglais déjà. Et alors, ça va être un super match. Parce que on est très moyen défensivement, on l'a vu. Hein, et la remarque de Stéphane est intéressante quand il parle de Varane, que Varane est un peu moins bon. Parce qu'on a vu un super Konaté, je vous rappelle, contre
oui, très, très bon.
Contre la Tunisie, très bon, ouais.
Et si ce n'était pas Deschamps qui avait une relation particulière avec Varane, parce que c'est celui qui relaie les informations de Deschamps sur le terrain, puisque Loris est un peu loin, je pense qu'on aurait une défense centrale Konaté, Upamecano.
En tout cas, c'est la meilleure.
Voilà.
Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Martinez, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des choix à faire. Après, il les fait pas, et de toute façon, c'est lui qui aura tort ou raison à la fin, puisque c'est lui qu'on jugera à la fin. Donc réellement, mais c'est vrai que moi, en tout cas, si on me donnait le choix, je prendrais Konaté ou pas Mécano. Ça, c'est sûr.
Voilà. Et donc à partir de là, cette équipe-là, c'est continuer à bien jouer, c'est continuer à faire les espoirs. Et je reviens au match donc, de quart de finale contre l'Angleterre. Mmh. Je pense que l'Angleterre a des faiblesses défensives.
Oui.
La France a des faiblesses défensives. On s'apprête à avoir un match avec beaucoup de buts.
Ah, d'accord.
Ah oui, à mon avis, à mon avis, ça va finir 3-2. Ça va finir sur un score incroyable. Et, parce que les Anglais, attention, ils ont été bons contre le Sénégal. Mmh. Au niveau de la conception offensive des actions, l'utilisation des côtés, etc., etc. Et nous, on est très bons offensivement puisqu'on marque à chaque match, on se crée des occasions à chaque match, etc. Donc c'est pour ça que je me dis que ça va être vraiment certainement un des plus beaux matchs qu'on ait vu depuis le début. En espérant qu'on gagne, hein, parce que quand on gagne, c'est jamais un bon match. Quand on perd, c'est jamais un bon match. Hein.
Est-ce que tu crois que Deschamps, il peut nous faire une surprise, changer sa compo?
Non,
je crois pas.
Il est peur, par exemple, d'être. Je sais pas. Je pose la question. A priori, par exemple, on peut dire que sur le papier, en tout cas, les Anglais, ils ont un milieu de terrain solide quand même et très fort, très physique, très impactant. Est-ce qu'ils seraient capables de nous sortir justement ce que je disais tout à l'heure? Un Matuidi ou quelque chose comme ça pour rassurer.
Non. C'est dans le style de jeu.
Moi, je ne le ferai pas, hein, mais je demande si des chances.
Je pense qu'il y aura plus de conservation, comme on l'a vu contre la Pologne. Il y aura plus de conservation, on va maîtriser plus le ballon, on va essayer de garder la balle, d'avoir la possession, d'avoir une possession à 60 ou 65%, ce qui nous permettra donc de pas avoir l'emprise du milieu anglais. Et après, on aura notre côté gauche. Hein, quand il donne comme conseil Gareth Southgate de mettre trois arrières droits, oui. C'est qu'ils ont quand même peur de notre phénomène Mbappé. Hein.
Oui. Voilà. Il est à 5 buts hein, pour l'instant, hein. Donc c'est le meilleur buteur de loin de cette Coupe du Monde, hein, Noël.
C'est pas fini, il va marquer. Oui. Il va encore marquer. Bien sûr. Dans son interview, la dernière interview qu'il a donnée, il a dit cette Coupe du Monde, c'est une obsession pour moi.
Bah oui.
Et parce que en fait, il s'est aperçu que s'il veut un jour avoir le Ballon d'Or, je sais pas s'il l'aura parce que le Paris Saint-Germain a gagné la Champions League, mais il peut l'avoir parce que l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde.
Après, Monsieur Tosi, il peut faire les deux cette année. Hein.
Oui.
Ah ouais, bah écoute, c'est vrai.
Ça, c'est mon cœur de supporter qui dit ça, c'est pour ça.
Ah mais moi j'aime beaucoup le PSG, mais c'est vrai que quand on leur propose des duels, quand on leur propose, ils commencent toujours bien. Moi, je reverrai 100 fois ce match contre le Real Madrid où on fait une première mi-temps, le PSG exceptionnel.
Extraordinaire.
Et où on s'écroule complètement dans les 20 à 25 dernières minutes physiquement et techniquement et tactiquement. Ils ont qu'un style, un seul. Et c'est vraiment dommage. Et je pense, et même si je suis cocorico, et j'aimerais bien que le PSG gagne.
Pour en revenir à Noël à la Coupe du Monde, et on en parlait avec Philippe avant, hein, pour revenir à Kylian Mbappé. Pour information, au cas où il y en a qui l'auraient, Kylian Mbappé, c'est 11 matchs de Coupe du Monde, dont 9 comme titulaire. Il y en a 2 où il a été remplaçant, les 2 troisièmes matchs de poule. Donc 11 matchs de Coupe du Monde, 9 comme titulaire, 9 buts inscrits, 2 passes décisives et 5 fois élu meilleur homme du match. Donc je pense qu'on a dit ça, on a tout dit.
Il n'y a personne qui a 24 ans n'a mis autant de buts que lui.
En plus. Bon, il battra probablement le record de Giroud qui vient de battre le record des buteurs. Hein, 52 buts.
Je pense que
Mbappé,
monde,
il va largement.
Non, mais on a un phénomène et c'est ce qui me fait dire que c'est peut-être pour ça qu'on va aller au bout. Hein, parce qu'on a ce joueur d'exception. Alors, on va reprendre les 4 joueurs d'exception de cette Coupe du Monde. Parce que bon, même si Memphis Depay est bon, je ne pense pas que ça soit un joueur d'exception. Ronaldo avec le Portugal, Messi avec l'Argentine, Neymar avec le Brésil, Mbappé avec la France. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une de ces 4 équipes qui gagne la Coupe du Monde.
Bien sûr. Le Nice.
Après, pour revenir sur la possession, je ne pense pas que la France va avoir 60 ou 65% de possession contre l'Angleterre. Si l'Angleterre veut vraiment gagner, on voit que la charnière des fois est un peu fébrile, notamment on l'a vu avec Jules Koundé qui ressort des fois des ballons sur Hugo Lloris ou même des fois des contrôles un peu hasardeux de Upamecano. Je pense que l'Angleterre a vu les derniers matchs et je pense qu'elle va quand même presser, en tout cas dans les premières minutes. Après, je pense que voilà, comme on sait, on a Mbappé sur le côté, on a Ousmane Dembélé qui vont très vite, même si eux ils ont Kyle Walker aussi. Je pense que sur ça, l'Angleterre ne va pas laisser l'équipe de France jouer comme on peut le voir depuis le début de la Coupe du Monde.
Ouais, mais après, ce n'est pas le jeu de Southgate non plus, de la possession. Donc, je pense qu'on va avoir la possession et effectivement, j'espère qu'on l'aura parce que c'est comme ça qu'on peut gagner ce match-là parce qu'avec les Anglais, on sait très bien, des longs ballons devant, des choses, etc., ça peut être compliqué. On a vu que pas mal de buts qu'on avait pris ces dernières années, en tout cas avec ce groupe, on les avait pris sur coup de pied arrêté. Donc, dans les duels en défense, de la tête ou autre, on n'était pas aussi bon que ça. Ça ne veut pas dire qu'on était mauvais, mais on n'était pas aussi bon que ça. Donc le jeu, tant qu'il sera posé, tant qu'il sera en possession, avec effectivement, parce qu'on parle de Mbappé, mais si Jules Koundé arrive à trouver son adéquation avec Dembélé, Dembélé sur le côté, il fait très très mal. C'est parce que pour l'instant, l'adéquation entre les deux, en fait, n'arrive pas à se faire parce qu'au départ, elle devait être faite avec Pavard et Dembélé et que le choix a changé parce que bon, petit problème interne au niveau de Pavard et de comment il a joué, mais je pense qu'on peut faire mal un petit peu partout. Je pense qu'on a un milieu de terrain que l'on voyait un peu jeune au départ et effectivement moi le premier, mais qui quand même tient dans un côté de sécurité. Par contre, effectivement, moi, à la différence, je pense qu'on ne va pas jouer avec... le match contre la Tunisie nous a montré quelque chose. il nous a montré, en tout cas, je pense qu'il a montré à Didier Deschamps que en fin de compte, il peut compter que sur une quinzaine de joueurs.
Si on veut gagner la Coupe du Monde,
une quinzaine. Oui, une quinzaine. Parce que t'as Coman quand même. T'as Coman quand même. Non, t'as quand même.
Ça fait 12.
Ouais, non, mais t'en as. Je veux dire, je pense que quand tu vois le match qu'a fait Kolo Muani, il a fait un très, 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 très bon match.
On est quand même d'accord.
Au global, t'as 15 joueurs. Il sait que. Il a un groupe de 23.
Moi, je pense pas que tu as 15 joueurs. Je pense que c'est d'ailleurs là que risque. Noël, tu vas me dire, si on parle de ce match France-Angleterre, je pense malheureusement que s'il doit nous arriver malheur, ça va se jouer là. Quoi. C'est-à-dire que l'Angleterre, elle a quand même un banc. Quand tu sors, est-ce que la France peut se permettre de sortir, par exemple, Foden pour mettre ou Saka pour mettre Grealish par exemple en attaque pour faire entrer Rashford, même si Rashford, je raffole pas de Rashford pour l'instant, on n'a pas ça. Kolo Muani, il deviendra peut-être, c'est un joueur je pense qui a un grand avenir, il deviendra peut-être, mais pour l'instant on n'a pas ça.
La France a
un, faut pas qu'on ait de blessés, faut pas qu'on ait de suspendus, on a l'équipe type. On sait qu'on peut changer.
Ouais, mais au bout d'une heure, tu fais sortir Giroud parce qu'il est cramé et il le sera encore plus que les autres matchs contre les Anglais. Tu fais rentrer. C'est quand même. Aujourd'hui, moi, je suis un fan de Kolo Muani, mais aujourd'hui, c'est encore. On parlait tout à l'heure du. C'est le deuxième attaquant, peut-être, si on veut dire comme ça, en tout cas sur le papier, Giroud. Tu fais rentrer quelqu'un, c'est le troisième ou le quatrième. Donc, ça commence à faire lourd. Alors que les Anglais, je pense qu'un Grealish, par exemple, il peut postuler à cette Coupe du Monde, peut-être.
Bah oui,
c'est quand même un grand
joueur.
C'est
celle-là qui m'intéresse.
Oui,
au moins, c'est peut-être un grand joueur. Non, mais c'est peut-être un grand joueur.
T'as vu Kaya Wertz, premier match avec l'Allemagne, il est transparent. Deuxième match, ou troisième, il est très bon.
Ouais, tu vois, on a vu Kevin De Bruyne, et en fin de compte, pendant trois matchs, il a été transparent. Voilà, mais moi, je peux te dire que Grealish, c'est l'ombre de lui-même. Maintenant, en fait, c'est pas grave, Stéphane, si Giroud il est cramé à 65e, il aura marqué deux buts avant. Donc, en fait, il peut sortir.
J'espère.
Le 11 de l'équipe de France, pour moi, est plus fort.
Et oui, largement.
Il y a aussi un truc qui est important pour moi, c'est que les mecs qui vont jouer les 11 titulaires, ils savent qu'ils vont être titulaires. Parce qu'en Angleterre, sur les côtés, il y a 4-5 choix qui se valent pas mal. Bon, il y a Sterling qui sera peut-être pas là pour les problèmes cambriolage. Il est rentré en Angleterre. Mais du coup, il y a quand même beaucoup plus de possibilités, sur le banc. Mais les choses sont moins claires. Et donc, je pense qu'on peut faire la différence.
Moi, je pense qu'on a un meilleur 11 que les Anglais.
Il ne faut pas oublier non plus les 35 minutes catastrophiques qu'ont fait l'équipe d'Angleterre. C'était d'un ridicule, les 35 premières minutes contre le Sénégal. Moi, je me disais, c'est indigne d'une équipe comme ça de jouer comme ça. On a complètement oublié que pendant 35 minutes, ils ont été totalement inexistants. Et s'ils sont inexistants contre nous, pendant 35 minutes comme ça,
ils vont le payer cash.
Ils vont payer cash.
Et autre chose que ça, c'est-à-dire qu'on m'a vendu en début de Coupe du Monde que Harry Kane allait peut-être être un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde peut-être cette année. J'ai rien contre ces équipes, mais il a joué contre le Sénégal, qui est pas non plus la plus grosse défense du monde, réellement. Il a marqué un but, et dans leur poule, ils ont joué contre
l'Iran,
qui est pas la plus grosse défense au monde. Les États-Unis, qui sont un peu physiques, mais qui est pas la plus grande défense du monde. Et le Pays de Galles, je veux même pas en parler parce que j'en ai parlé déjà dans les autres émissions. Donc réellement, je veux pas dire que ça va être une promenade de santé, etc., parce qu'un match déjà, faut le gagner. Mais je pense que effectivement, comme le disait Julien. Je pense que sur l'équipe que l'on a, on a les armes pour faire un très très bon match, pour être meilleur qu'eux et de gagner ce match. Après, est-ce qu'on le gagnera ou pas ? Ça, c'est autre chose. Parce qu'on a vu que des matchs, il faut déjà les gagner avant d'en parler. Mais je pense qu'on n'a pas à rougir pour pouvoir gagner ce match.
Pour moi, la seule incertitude, c'est un peu les coups de pied arrêtés, comme on a parlé tout à l'heure. Sur un match assez bloqué, fermé, etc., ils peuvent nous faire très mal à ce niveau-là.
Surtout qu'ils ont de la taille.
On peut se moquer très souvent de Maguire. Il le cherche à chaque coup de pied arrêté. C'est-à-dire que ça va pas passer une fois, deux fois, trois fois, mais la cinquième, sixième, ça peut passer. Et il en rate pas. Enfin, il est capable d'en mettre.
Et c'est pour ça qu'il faudrait mieux qu'il soit attaquant que défenseur.
Bon, en tout cas, Noël, ça sera sur notre antenne donc samedi soir, 20h. Hein,
On y sera.
Alors, je voudrais aussi qu'on parle de l'autre quart de finale qu'on connaît, c'est Pays-Bas-Argentine, hein, puisqu'on a, on l'a dit, les Pays-Bas ont battu les USA 3-1 et l'Argentine a battu l'Australie 2-1. Vous le voyez comment, ce match?
Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. Je pense que l'Argentine va avoir le monopole du ballon, va essayer de se créer des occasions. Il y a deux solutions. Ou Messi fait la différence comme il a fait dans le match contre le Mexique, dans les matchs où il a été brillant. Et à ce moment-là, peut-être l'Argentine peut espérer. Sinon, ben, les Pays-Bas, ils ne vont pas jouer. Ils vont les attendre. Ils vont essayer de les prendre en contre. Ils vont peut-être les jouer un petit peu plus haut comme ils n'ont pas de joueurs de rupture et des joueurs qui vont vers l'avant. Ils vont avoir un pressing mi-terrain et en jouant moyennement, eh ben ils vont gagner. Le Pays-Bas va gagner 2-1 ou 1-0. Vous verrez, ça ne sera pas un match très spectaculaire.
J'espère
me tromper, ouais. Mais je ne crois pas.
Grâce à Léo Messi.
Bon, ben on verra ça en tout cas. Bon, il y aura Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. Ça sera pour les huitièmes. Donc, on verra qui se rencontrera ensuite en quart. Juste un petit mot. La Croatie donc, qui s'est qualifiée donc, aujourd'hui. 1-1 après prolongation contre le Japon. Victorieux, 3 tirs au but 1. Risque de rencontrer le Brésil qui mène actuellement devant la Corée du Sud. Hein, 2-0.
Ouais, 2-0, but de Neymar, j'ai vu sur pénalty.
Pénalty et Vinicius.
Incroyable.
Donc ça, incroyable ce garçon. Ouais, donc ça veut dire qu'on s'oriente vers un Croatie-Brésil, ce qui est envisageable quand même. Hein.
Oui, c'est bien. Après, maintenant, on va voir les derniers carrés. Quoi. On va voir surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir quand même ce match demain entre l'Espagne
Maroc,
et Maroc, que ça va être passionnant. Ouais. Et puis le Portugal aussi.
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir une finale France-Brésil?
Oui. Ah bah bien sûr,
c'est ce que j'ai annoncé direct, moi.
Oui. Et puis Noël, on va peut-être retrouver toutes les grosses nations du football, à l'exception de l'Allemagne, en quart. Hein.
Oui, on verra. C'est vrai.
Peut le faire aussi. Hein.
Ouais. Ouais, ça peut le faire aussi. Et bon, il faut qu'on soit très bons, nous, pour passer quand même l'écueil de l'Angleterre. Après, ça sera
le Portugal,
ça serait magique. France-Brésil en finale, ça serait magique, quoi.
Bon, ben on verra ça. On va vous libérer, Noël. Merci en tout cas.
Oui, ça va.
Tout va bien.
Bonne soirée à tous. Hein,
merci, Noël.
C'est sympa.
C'est génial.
Allez, ouais. On écoute la deuxième pause musicale Beach avec les phares. Et puis ensuite, on va finir cette émission.
Je suis dans la kitchen, bitch. Appelle-moi DJ, bitch. Tu prends des pictures, flash. On va la bitch, bitch. J'suis dans la kitchen, bitch. Appelle-moi DJ, bitch. Tu prends des pictures, flash. On va la bitch, bitch.
Je regarde les hommes se faire du sale, se faire du sale, se baratiner. Ça me fait de la peine, je le montre pas. J'en ai la poix, j'en ai gratiné. Tous à la recherche d'un petit coin de paradis. Ouais, beaucoup de gens remplis de seum, veulent à tout prix te parasiter. La jalousie, sans aucun doute, une maladie, ouais. J'ai toujours pas trouvé le remède pour l'éradiquer. Beaucoup d'adultes sont des enfants très mal éduqués. Les suicidaires feraient mieux de s'éloigner du quai.
Je peux pas me briser le cœur, j'en ai plus, ça fait longtemps. C'est que du business, on n'a pas besoin d'être potes, fais voir les montants. Je leur fais peur comme d'habitude, ils font semblant de pas m'entendre. Maman, pardon si dans mon album y a pas que des mots tendres. Et j'ai pas vraiment le choix, faut que les choque. Pas vraiment le choix, faut que les shoot. Tant que j'ai pas fini le job, je reste à mon poste comme un chou. Dans mon oreille, ils chuchotent. En vérité, c'est toi le plus chaud. Alors qu'ils ont des goûts de chiottes, alors qu'ils ont même pas vu le show. Ouais, j'ai rêvé d'être un monument, sans passer par les armes et leur maniement. Dieu merci, j'ai pris de la money, man. Quand t'entends ça, tu veux mon humain. Quand t'entends ça, t'es de bonne humeur. Tu vois, c'est pour ça, j'aime pas l'humain. Cerveau ne tourne pas normalement, tant qu'il n'a pas d'argent dans les mains. Chaque année, y a 10 nouvelles stars, des équipes entières qui brainstorm. Pourquoi je serais en compète avec eux? Chacun son tour, moi je l'ai déjà vécu. J'ai jamais vraiment trippé sur la fame, j'aime pas trop qu'on vienne me laver le cul. Ce qui me fait tripper, c'est d'être sur la scène et chanter chaque chanson comme si j'en avais qu'une.
Je regarde les hommes se faire du sale, se faire du sale, se baratiner. Ça me fait de la peine, je le montre pas. J'en ai la poix, j'en ai gratiné. Tous à la recherche d'un petit coin de paradis. Ouais, beaucoup de gens remplis de seum veulent à tout prix te parasiter. La jalousie, sans aucun doute, une maladie. Ouais. J'ai toujours pas trouvé le remède pour l'éradiquer. Beaucoup d'adultes sont des enfants très mal éduqués. Les suicidaires feraient mieux de s'éloigner du quai.
Je suis à la recherche d'un dernier point, d'un dernier foin pour le paradis. Bientôt 10 ans que j'ai plus de vie, tous ces millions, c'est pas de la magie noire. Je suis enfin michetonnable.
tout a changé, j'ai tout arrangé. On me draguait pas maintenant on Marcel. Même dans la street comme tonton Marcel. Je reste dans mon coin, je veux pas mélanger. Je suis dans mon pain, faisant mon pain. Je peux bégayer la boulangère. Je levais la main, on me donnait rien. On me rassurait en courant d'air. Maintenant je veux plus m'arrêter, qu'à vue apprêtée devant la rétine. Pour ça que je rétis et re-revêtis. Gucci à 2K que je revêtis. Petit quand j'arrive et toi plus petit. Je suis sans pitié comme la célébrité. Je me fais sucer, c'est la base du métier. Va te faire enculer, c'est la balle amitié. Donne-moi ma dose ou la balle va ripper. L'album va liquer, touche à mon buzz et fais-moi paniquer. Je vais m'appliquer, sûrement disséquer, voir d'où vient le mal. De valet, de fa, combattre le blood, y'a touche pas la bicoque, y'a pas d'antidote, non.
Je regarde les hommes, se faire du sale, se faire du sale, se baratiner, ça me fait de la peine, je le montre pas, j'en ai la poix, traîne gratiné, tous à la recherche, d'un petit coin, de paradis, ouais, beaucoup de gens, remplis de seum, veulent à tout prix te parasiter. La jalousie, sans aucun doute, une maladie, ouais. J'ai toujours pas trouvé le remède pour l'éradiquer. Beaucoup d'adultes sont des enfants, très mal éduqués. Les suicidaires feraient mieux de s'éloigner du quai.
C'est peut-être dingue, mais je veux être partout en montrant le moins possible. Qu'est-ce que je foutrais seul au sommet? Je veux que la famille grimpe aussi. Boy, la musique, c'est des cycles. Ce qui te fait survivre, c'est les singles. J'ai décidé de streamer sans enfiler de string. Victoria's Secret, c'est peut-être dingue, mais je veux être partout en montrant le moins possible. Qu'est-ce que je foutrais seul au sommet? Je veux que la famille grimpe aussi. Y'a du demon, c'est le foutoir. Chaque année, faut s'imposer. Si je fais pas trop d'interviews, c'est que je préfère laisser le son causer.
Alors Stéphane, juste avant d'en finir sur le chapitre mondial, il y a quand même une stat intéressante, c'est qu'il y a au moins une trentaine de joueurs qui effectuent leur dernière Coupe du Monde. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais, bon, ça, je ne sais pas s'il y en a jusqu'à 30, si en comptant ceux qui sont... Mais c'est vrai que...
Entre les remplaçants, les joueurs un peu moins connus,
on assiste c'est impressionnant quand même. C'est dingue, une génération lyonnaise. Et on n'a pas mis, tiens, je me rends compte un instant dans l'article qui est paru dans l'excellent site internet Le Quotidien Sport, on a oublié, j'ai oublié Modric. Oui. De mettre Modric, effectivement, mais Thomas Müller, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Thiago Silva.
Je crois que c'est vraiment une Coupe du Monde qui marque la fin de génération.
Les joueurs de plus de 32 ans, quoi, ils ont 32 à 39. Dani Alves, qui en a 39. C'est dingue. Je
sais pas chez nous aussi, hein, Loris Giroud.
Olivier Giroud.
Peut-être Griezmann. Peut-être,
Après Griezmann, même 20.
Peut-être.
Moi, je pense pas, mais parce que il y a déjà, on gagne 6 mois, on gagne quelques mois quand même. Hein, puisqu'on est en hiver, donc
ça fera 3 ans et demi quoi la prochaine.
Voilà, ça fera 3 ans et demi, donc c'est selon quand t'es dit. Bon, c'est vrai que c'est important quand tu es dans les âges. C'est vrai que on n'a pas mis Modric, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. Neuer, il y en a qui sont partis déjà.
Pour les Espagnols. Ronaldo fatalement, Messi naturellement. Bon,
on n'a pas mis non plus Ronaldo. Il est mauvais.
Non mais c'est vrai que ça fait au moins une trentaine.
Je pense qu'il y a largement une trentaine avec une équipe super super solide quoi. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui arrive. Bon, c'est juste, je pense, un phénomène ponctuel qui fait qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup, mais des sacrés joueurs quand même, hein, parce que c'est pas juste, il y a des bons joueurs qui arrêtent, parce que quand même, quand tu as Ronaldo, Messi,
Modric.
Non, faut pas en parler, parce que j'ai oublié, Ronaldo, Modric,
les Anglais aussi,
Lewandowski, c'est quand même un monstre aussi, Thiago Silva. Ken, je crois qu'il
est plus jeune.
C'est vraiment des gens qui arrivent au bout comme ça, c'est assez énorme. Donc peut-être ça va aussi remettre sur... Il y en a qui sont déjà plus là, mais il y en a d'autres.
Ouais, ce qui va être intéressant, c'est justement ça, c'est qu'il y a des très très bons joueurs de 23-24 ans qui, à la Coupe du Monde prochaine, seront à ce qu'on appelle l'âge un peu où normalement, si tu as passé le cap, t'es en haut des possibilités de ta carrière, 27-28 ans. Et donc, il y en a beaucoup comme Mbappé ou autres, qui ont entre 23 et 24 ans. Et là, dans 4 ans, effectivement, on va avoir pas mal de joueurs qui vont être au summum de leur carrière et de leurs possibilités. Et ça peut être un côté intéressant.
Donc, Eric qui ira aux US dans 3 ans et demi, il verra toute une jeune génération de joueurs dans les différentes équipes.
Hein. Une Coupe du Monde aux États-Unis, franchement, c'est juin, juillet, c'est un truc à faire.
Ouais, vraiment. Ouais. Bon, Valentin, en attendant, il y a quand même une actu sportive hors mondial. Je voudrais qu'on parle un peu du national. 14e journée, le Paris Atlético battu à Nancy 1-0. Et comme le Restart a gagné donc à Bordeaux 4-0, eh ben, pour l'instant, c'est Concarneau qui est en tête avec 29 points. Devant le Restart, deuxième 24. Versailles qui joue ce soir contre Sedan à 18h. Le match donc est terminé. Versailles qui a joué ce soir, donc pour l'instant, avant son match contre Sedan, était quatrième à égalité avec Dunkerque et puis Cholet 22 points. Le Paris Atlético, par contre, 16e avec 13 points. 17 Borgo 10 points et 18e Saint-Brieuc 9 points. Ça s'arrange pas. Hein. Ils se battent toujours pour le maintien, nos amis du Paris Atlético.
On est sur la même dynamique début de saison. Hein. Ils ont beau changer d'entraîneur, revoir un peu leur effectif. C'est tout le temps dans les 20, 15 derniers mètres. J'ai l'impression de me répéter en fait chaque semaine.
Oui, mais bon.
J'ai dit exactement la même phrase. Oui, les 15-20 derniers mètres, malheureusement, Paris Atlético, ça a vraiment du mal à... Ça crée hein, du jeu, mais il faut frapper.
Ça marque pas de but.
Il faut la petite passe qui déclenche quelque chose. Le décalage, non. On attend, mais on attend quoi en fait? On attend la fin de saison pour se réveiller. C'est compliqué.
Ils attendent que moi, Philippe.
De quoi? Oui, oui, un coach. Bah oui, bah, qui sait?
C'est un problème mental, ils attendent que moi.
Ouais. qui sait? Donc, Paris Atlético battu. Alors, autre équipe battue, c'est le Paris FC chez les féminines, battu par le Paris Saint-Germain. Ouais. C'était le match phare de la 10e journée donc, du championnat de France de foot féminine.
C'était le match phare, mais c'était prévisible, on ne va pas se mentir, vu les effectifs. Même si le Paris FC a un effectif qui chaque année ils évoluent surtout au niveau des féminines et non franchement moi je l'ai regardé en replay parce que je l'ai pas vu en live, mais c'était un match vraiment il y avait tous, mais après c'était le Paris Saint-Germain, c'est comme Lyon, on va pas se mentir, ils ont quand même encore quelques années d'avance.
Lyon qui est en tête avec 28 points devant le PSG, 26 points deuxième, et troisième donc le Paris FC 18 points.
Voilà, surtout important juste Lyon a mis un 8-0 je crois à Dijon,
oui.
Et donc il a rebasculé en tête au niveau de la différence de but, ce qui n'était pas le cas avant cette journée.
C'est ça, exactement.
Paris était un peu derrière, alors après dans la confrontation. Et le problème, c'est qu'on risque de se retrouver encore, en tout cas pour les Parisiennes, avec des points de retard et un point de plus quasiment avec la différence de but.
Donc du coup, Versailles en national, on vient d'avoir le résultat, a battu Sedan, donc 2-0. Ça veut dire que Versailles repasse à la deuxième place, juste devant le Restart, donc avec 25 points, juste devant le Restart, donc 24, et à donc 4 longueurs de Concarneau.
Ouais, lui, le Restart... qui avait mal débuté, un peu, c'était en dents de scie, c'était match nul, victoire, défaite, ça n'avait pas trop se placer. Et là, bon, ils sont partis, on va pas se mentir. Ils sont vraiment, ils ont eu des débuts de saison un peu compliqués avec des cartons rouges, comme on disait en Ligue 1, Ligue 2, National, c'était les arbitres qui étaient très très durs. Et là, ça commence à se calmer un peu. Et ouais, ils sont. Le Red Star, c'est un club de légende et c'est un club mythique. Et on le voit encore aujourd'hui. S'ils sont en haut du classement, c'est pas pour rien.
Ouais,
alors, à l'inverse du Paris Atlético. Ouais.
Alors, le Paris Atlético battu, le Paris FC féminine battu, et puis en basket, le Paris Basket battu. La 11e journée. Hein.
Le Paris Basket battu.
Bah si, 95-85 en championnat. Hein.
Oui, mais il y a quand même le Rock Up le mercredi où ils gagnent face à Hambourg. Ouais. Et puis juste avant, ils gagnent face au Portel qu'on avait justement parlé. Donc deux victoires d'affilée.
Ouais, mais là, ce week-end,
là, ils sont en train de jouer actuellement en Coupe de France face à Antibes, aux Sharks d'Antibes, et ils sont menés à la pause de 53-49. Donc,
Bon t'étais au match, samedi, 10 points.
10 points, c'est beaucoup, mais pas mérité.
Ouais,
franchement, ils avaient bien débuté, ils ont été là quand il fallait, les schémas de jeu sont respectés, tout ce qui est pick and roll, ils sont là, ils ont mis de la taille, du physique. Mais bon, il faut être adroit. Et dans le dernier quart, malheureusement, c'est ce qui leur a manqué. Et c'est ce qui leur manque souvent cette saison, c'est être adroit dans les derniers instants.
Alors, ça fera plaisir à Eric. Nanterre a gagné à Pau, donc grand club de basket, Paulhac-Orthez. 80-71, et puis Boulogne-Levallois qui survole le championnat.
Ouais,
donc c'est imposé devant Fos-sur-Mer, 96-85. Donc Boulogne-Levallois en tête, 90%, devant Monaco. Hein.
Ouais.
Et puis Nanterre est 9e avec Blois, 45,5%. Et puis le Paris Basket, il est dans un ventre mou. Hein, 12e ex aequo, Gravelines, Dunkerque, Strasbourg, Nancy avec 36,4%.
C'est ça, Boulogne-Levallois, c'est normal qu'ils soient ici. C'est même vu, c'est pas vu l'effectif, mais vu le joueur, la future, le futur crack, ouais, si on peut dire ça, de la NBA qui, oui, qu'ils ont dans leur effectif, c'est tout à fait logique. Monaco un peu déçu de cette de ce milieu de saison parce que franchement ils étaient très très bien débutés, ils étaient premiers du championnat il y a encore quelques journées de ça, mais bon, Monaco ils ont quand même beaucoup de matchs à jouer aussi, on va pas se mentir. Boulogne-Levallois, oui, regardez les matchs de Boulogne-Levallois. Quand ils vont jouer face au Paris Basket, déjà on sait déjà, toutes les places sont prises.
Ah ouais,
jusqu'à la fin, ah ouais, de l'année. Ah bon, Boulogne-Levallois, si vous voulez aller voir un match à Boulogne ou oui, ils se déplacent, par exemple à Paris, au Mans, où vous voulez, c'est impossible d'avoir une place. C'est dès que bah, Victor Wembanyama, hein, c'est l'effet NBA, on va pas se mentir.
Basket, hein. C'est les Américains qui remplissent.
C'est ça, c'est ça. Bah, en plus, ils ont acheté les droits télé, en plus, donc doublement.
Ils achètent les places. Ils,
ouais,
achètent les places et après.
Ouais, ouais.
C'est ça.
En tout cas, le Paris Basket, j'ai vu, jouera le week-end prochain à Villeurbanne, 18h30. Ça va, c'est dimanche, il vaut mieux éviter qu'ils mettent là pendant le match de foot. Hein.
Non, non, oui, ouais, oui, mais pour eux, bon, ça change pas grand-chose. Mais ouais, face à Villeurbanne, ça va être face à Lyon, ça va être très très compliqué. Après, ils peuvent faire des surprises. On avait vu quand ils avaient joué le match à Roland-Garros, ils avaient franchement tenu presque Monaco en échec jusqu'à la dernière seconde. Pourquoi pas ? Ça peut peut-être leur donner encore une envie. En tout cas, ils ne jouent pas les relégations comme ils jouaient en début de saison, ce qui est déjà,
oui,
une bonne chose.
Oui, ils sont dans le ventre mou,
mais
un peu.
Je pense que ça serait, ouais, bien qu'ils ne soient pas que dans le ventre mou, sachant qu'en plus, là, ils n'ont pas l'effectif l'année prochaine. L'année prochaine ne sera pas du tout le même. Il y a au moins 3-4 joueurs NBA qui seront déjà partis pour les États-Unis l'année prochaine. Donc, c'est là qu'il faut faire quelque chose et montrer de quoi ils sont capables et de construire peut-être un futur groupe, je ne sais pas.
Bon, par contre, il y a eu victoire en volley. Hein. 11e journée, le Paris volley qui bat Saint-Nazaire 3-2. Bon, et puis Plessis-Robinson, autre équipe francilienne, battue 3-0. Donc Tours, Chaumont sont en tête avec 26 points. Et Paris est 9e avec 13 points. Et Plessis-Robinson, 12e avec 10 points sur 14 équipes.
C'est ça. Ils, ouais, ont perdu face à... Non, ils ont gagné face à, pardon, Saint-Nazaire, ouais, mais un match très très serré, 3-2. Saint-Nazaire qui est 4e du volley. Donc, et puis Saint-Nazaire en général est une bonne terre de volley. Et ouais, Paris, là, c'est étonnamment le Paris Atlético, ça reste le Paris Atlético, c'est défaite sur défaite ou match nul, ouais, et c'est encore, ouais, faut aller, ouais, le chercher. Que le Paris volley, ça sort un petit peu des sentiers battus, comme le Paris basket. Donc bon, ça annonce que du bon pour la suite. Donc on,
ouais, non, mais il faut que Valentin il aille au match, comme ça, c'est le porte-bonheur un petit peu.
Voilà. Ouais, faut que j'y retourne, faut que j'y retourne, c'est ça.
Bon, dernier petit mot, je sais que t'aimes bien les sports mécaniques, un hommage à Patrick Tambay qui est décédé, oui, un des plus grands pilotes français d'une exceptionnelle génération de
fois
de pilotes
de Grand Prix, ouais, avec Ferrari à la Scuderia. Oui. Non, non, son fils, ouais, est un très très bon pilote aussi, mais oui, on n'aime jamais perdre des personnes dans notre entourage, mais en plus là, une légende comme ça du sport mécanique, il n'y a que des hommages, et là je pense qu'on a une bonne semaine d'hommages qui va continuer.
Le Dakar aussi.
Oui, le Dakar, oui.
Oui, il Dakar. Pas que la première. Et on, ouais, sait skieur, j'avais lu en préparant, ouais, les...
Ah oui, non, mais il touchait à tout, et c'était vraiment ce que tout le monde retient de lui, c'est que, ouais, c'était, même encore à l'âge qu'il avait, malgré la maladie, ouais, il était encore un bon vivant, et malheureusement, il est parti trop tôt, mais c'est des choses qui arrivent. Mais là, en ce moment aussi, je pense qu'il va y avoir des hommages, parce qu'il y a les cérémonies des sports automobiles, enfin de la Formule 1, qui est en train de se passer, oui, actuellement. Donc je pense qu'il y aura un petit hommage de la Scuderia Ferrari ou autre.
D'accord.
C'est festival, hein, pour,
oui,
le Brésil.
C'est le festival, combien
4-0.
Là,
oh là, 4-0, 4-0,
but de Paquetta.
Bah oui, Paquetta. Bon, tu suis un peu le mondial, comme tout le monde, malgré tout, tous les autres. Qu'est-ce que t'en penses,
bah écoutez, de ce mondial, équipe de France, la Croatie, ouais, n'aurait pas dû passer, ouais, mais bon, c'est pas grave.
Ah bon,
à part, ouais, les tirs au but, moi je trouve que le Japon, franchement, a mis... Je le regardais pendant le trajet, là, le Japon était physiquement présent, ils ont mis de l'intensité, c'était beau à voir, en fait, tout simplement, contrairement à nos amis de la Corée, ouais, du Sud, parce que là, c'est un peu compliqué. Après, c'est le Brésil, c'est différent, mais s'il y a Brésil-Croatie, je ne vois pas la Croatie, à part s'ils nous font comme en 2018, où ils amenaient les équipes jusqu'au tir au but et ils arrivaient à passer, ouais, sur un coup de chance. Ouais. C'est ce qu'ils vont essayer de refaire, je pense, mais franchement, le Japon était mérité.
Mais c'est vrai qu'on a dit avec Noël Tosi, le continent asiatique, chapeau cette année. Hein. Bon, ils vont s'arrêter en 8e, ouais, avec la Corée, comme ça a été pour le Japon, mais chapeau. Hein.
Ouais, moi, franchement, ouais, franchement, je suis en Corée et je suis au Japon. Je suis plus satisfait de mes équipes que, par exemple, où j'ai été déçu parce que je savais qu'ils iraient pas loin. Mais comme on l'a dit, la première émission qu'on a faite où j'avais poussé un peu mon coup de gueule le fait de se dire ils peuvent en prendre 6, etc., etc. Mais le Qatar, il y a une vraie, déception. Non, mais il y a une vraie déception au niveau de l'envie.
Oui, mais c'est pas au niveau de foot, c'est pas un pays de sport. Ils font même des stades, ils en construisent. Ils ont tellement pas d'histoire dans le sport.
Mais t'as pas le droit. On peut ne pas. Ça, c'est toujours l'éternel truc, mais c'est pas une question. T'es un pays de foot, t'es pas un pays de foot. Quand tu l'organises, tu l'auras peut-être jamais, tu seras peut-être plus jamais qualifié. J'espère pour eux que je me trompe. Tu dois mettre l'envie. Les Japonais, ils en gagneront peut-être jamais de Coupe du Monde. Les Coréens, ils en gagneront peut-être jamais. Mais ouais, à mais chaque fois, ils mettent l'envie.
Oui, mais c'est des compétiteurs. C'est un pays qui fait du sport.
Mais ils font d'autres choses que ça. Ils sont, les Coréens et les Japonais, ils sont meilleurs au ping-pong qu'au football.
Oui,
donc, c'est pas quand même un pays de football.
Oui,
mais ils mettent l'envie. Ils mettent la passion. Ils mettent ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la nation et autres.
Voilà. Bon, par contre, on en parlait un petit peu, continent africain, on va attendre quand même le résultat du Maroc, mais le Ghana qui passe pas, le Sénégal qui s'arrête en 8e, le Cameroun qui passe pas
Le Ghana, moi, j'y croyais pas.
Pas de progression pour ce continent.
Parce que les frères Ayoun ont tenu pendant longtemps l'équipe et il va falloir renouveler. Par contre, moi, j'ai une vraie déception sur le Cameroun. Alors, je dois avoir une déception un petit peu moins importante que Samuel Eto'o, puisque Samuel Eto'o nous avait dit qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde. Donc, effectivement, je pense
qu'il y avait de l'intox. Peut-être.
Oui, bien sûr.
Après, c'est pour ça que Sénégal allait battre l'Angleterre.
Mais moi, par contre, j'ai une déception au niveau du Sénégal, parce que je pense qu'effectivement, moi, je pensais que le Sénégal pouvait battre l'Angleterre. Ouais. Et je pense que s'ils avaient joué leur football, je pense qu'ils ont joué, alors on ne le saura jamais, mais je pense qu'ils ont joué le match dans leur tête avant de jouer. Et je pense qu'ils l'ont perdu dans leur tête.
Moi, je pense qu'on a quand même. On assiste quand même à une grande montée en puissance du football africain.
Ouais, totalement.
Et follow, parce que si tu regardes.
Ça stagne un peu quand
non,
même.
Non, non, moi je trouve pas.
Sauf peut-être le Maroc s'ils arrivent à.
En 2018, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas un seul club africain en huitième de finale. Je crois qu'il n'y a aucune équipe africaine qui est passée.
Il y en a deux. Peut-être le Maroc.
Non, en huitième, il y en a deux.
Oui, avec le Maroc.
En huitième, il y en a deux. Ensuite, le Ghana, il ne faut quand même pas oublier que leur dernier match, c'est quoi leur dernier. C'est Ghana quoi le dernier match.
Contre l'Uruguay.
Uruguay, il y a quand même 0-0. Il y a un pénalty pour. Alors, effectivement, avec des si, on en parle depuis tout à l'heure.
Oui,
on peut en faire long. Il y a un pénalty. Ils ratent le pénalty dans la foulée. Je crois qu'ils prennent deux buts dans les 10 minutes qui suivent. Donc, effectivement, c'est l'expérience tout. Mais je trouve que le Ghana n'a pas été ridicule dans cette Coupe du Monde. Le Sénégal a été même beaucoup mieux que beaucoup, mieux que ridicule.
Leur bilan, il est bon.
Voilà, ils perdent contre les Anglais, qui est une très bonne équipe. Qui est une très bonne équipe. D'ailleurs, on s'inquiète un peu pour l'équipe de France, donc c'est une très bonne équipe. Maintenant, le Maroc a été très bon. Le Cameroun a battu le Brésil, même si c'était le Brésil B. Donc, je pense que je suis désolé, moi, Philippe, on peut pas, c'est pas justifié de logique de dire il y a une montée du football asiatique avec le Japon.
Ils sont là. Deux huitièmes.
Des équipes africaines.
Oui, mais eux
font pas. Aujourd'hui, les équipes africaines n'ont pas fait moins bien dans cette Coupe du Monde que les équipes asiatiques.
Oui, mais non. Mais au niveau de ce que dit
les équipes africaines. Oui.
Voilà, c'est ça.
Ce que peut dire Philippe, c'est que la différence, c'est que l'Afrique, ça a toujours été un pays
football. Et oui.
Alors que l'Asie,
non, mais l'Afrique, je vous rappelle quand même que l'Afrique n'avait pas un seul représentant en huitième de finale en 2018.
D'accord, mais
donc je pense que là, ils sont là maintenant.
Ils en ont eu d'autres certaines années. Ils en ont eu d'autres certaines années.
La Corée, ils n'ont pas été en demi-finale de la Coupe du Monde, je crois.
Non, jamais en demi-finale.
Même si tu as raison.
En quart de finale.
Jamais. Non.
T'es sûr, pas en demi.
Jamais. Jamais.
Si.
Jamais.
Ah, si.
C'est une année.
En 2002, en demi-finale, je crois.
Ils terminent quatrième, une année.
Non, non, moi je trouve que c'est dur de dire. On peut pas dire ça. Moi, il faudrait que absolument que le football africain puisse avoir. Ça sera le cas en 2026, ça sera le cas avec les 48 équipes qui vont jouer la Coupe du Monde, mais il faudrait qu'ils aient plus d'équipes. L'Égypte, par exemple, aurait mérité de jouer la Coupe du Monde, peut-être plus l'Égypte aurait mérité la Coupe du Monde que la Pologne, par exemple, ou qu'une autre équipe européenne.
Mais Stéphane, ça oui, on est tous d'accord qu'il devrait avoir plus de pays.
Je vois pas en quoi on peut dire bravo le foot asiatique.
Non, c'est pas
Japon.
Non, mais c'est pas que ça.
bravo le Japon, bravo le Japon. Ils se tapent l'Espagne et la coupe, et l'Allemagne dans la même Coupe du Monde. Bravo le Japon. Et ils ont mis, ils ont fait vaciller la Croatie. Malheureusement, ils ont oublié de travailler dans leur. Il faut qu'ils rajoutent dans leur liste de travail les tirs au but.
Il y a la question des attentes des gens. Voilà, l'attente des gens sur les pays africains est beaucoup plus grande que sur les pays asiatiques, d'une part. Et il y a pour moi la limite du fonctionnement des pays africains et du développement du football en Afrique. Parce qu'ils sont limités par les infrastructures, par la façon dont sont gérées les fédérations, etc. Et tout ça, en Asie, c'est complètement différent. Un pays asiatique qui va vouloir s'investir dans le football va développer des infrastructures beaucoup plus rapidement, mettre les conditions en place pour y arriver. Ce qui n'est pas fait en Afrique, alors qu'il y a beaucoup plus de passion, il y a beaucoup plus d'intérêt pour le football. Regarde ce que fait FIFA.
Alors qui n'existe plus sur la planète football. L'autre fois, tout à l'heure, j'étais en voiture parce que je pensais à ça et je me demandais où il était. Donc s'il y a quelqu'un qui sait autour de la table, bah, dites-le-moi. Mais je ne sais pas où est Philippe Troussier. Mais regarde ce que Philippe Troussier a fait avec le Japon. C'est-à-dire qu'il les a qualifiés pour les Jeux Olympiques au niveau football. Il emmène les moins de 19, je crois, qui sont, je ne sais pas s'ils sont finalistes ou s'ils gagnent la compétition en moins de 19. Parce que derrière, comme tu le dis, Julien, l'État, quand il est venu et qu'il leur a dit, voilà, moi, je veux travailler avec les jeunes, je vais vous faire travailler, progresser sur des années, eh ben, ils ont dit, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi au niveau infrastructure? Vous avez besoin de quoi? Et ils ont mis les moyens pour. Et c'est vrai que c'est la problématique aujourd'hui de l'Afrique, c'est-à-dire qu'ils exportent des joueurs qui sont très, très bons. Mais la problématique, c'est que chez eux, ils prennent, je pense, les fédérations beaucoup d'argent, mais qu'ils ne redistribuent pas comme nous. Nous, on tire sur notre fédération française de foot en disant le foot amateur, ils ne reçoivent pas assez d'argent. Mais alors, qu'est-ce que c'est en Afrique? C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est encore pire que ça. Et le côté où je voulais te dire tout à l'heure, sur le côté où tu disais, oui, on ne peut pas dire l'Asie vis-à-vis. Mais ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas plus l'Asie. Non, c'est bien d'avoir deux clubs.
C'est un continent qui a bien progressé dans le
football. Mais au-delà de ça, où je voulais te dire, c'est qu'on peut être déçu quand même. De se dire que le Ghana ne passe pas parce qu'ils ne sont pas capables de battre l'Uruguay. Et l'Uruguay, cette année en Coupe du Monde, tu mets le Paris Atlético, il gagne. Donc c'est quand même hallucinant dire que le Ghana
ne peut pas battre
l'Uruguay.
J'ai vu le match, je trouve que c'est sévère, c'est tout. Alors, je suis peut-être effectivement encore trop gentil, trop indulgent, mais je trouve que le football africain, le Ghana est quand même pas passé très loin. Effectivement, t'as raison, ils sont assez, il manque pour l'instant peut-être de jeunes joueurs qui peuvent prendre la succession des frères Ayou, par exemple, pas seulement André Ayou, mais aussi son frère. Le Sénégal, il tombe contre l'Angleterre, qui va peut-être, on va voir ça contre la France, mais en tout cas qui est le dernier quand même. Ils jouent sans Sadio Mané, qui est leur meilleur joueur. Imaginons, parce qu'il ne faut pas se leurrer quand même, même si le Sénégal, c'est une très bonne équipe, Sadio Mané au Sénégal, c'est un petit peu Kylian Mbappé en équipe de France. Donc, je veux dire, imagine, nous, on n'a pas Kylian Mbappé pour jouer l'équipe de France. On est quand même ennuyé. Donc moi, je pense que c'est quand même pas mal. Maintenant, le Maroc, on dira peut-être le Maroc va peut-être perdre, effectivement, parce que tu as en face quand même une grande équipe européenne. Mais ils auront fait une super coupe du monde.
Par exemple, tu vois,
je pense qu'ils vont pas là, ils vont pas là, ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas baisser les armes, les Marocains contre l'Espagne. Donc de toute façon, ça va être quoi qu'il arrive, je pense, un bon match.
La plupart des bons joueurs des équipes africaines aujourd'hui qui sont représentés en Coupe du Monde, c'est beaucoup de joueurs qui sont formés en Europe. Là que le problème est. Je pense qu'à un moment donné, tu passes pas loin.
S'ils veulent gagner une Coupe du Monde.
Pourquoi tu passes pas loin? Parce qu'il manque ces petits détails, ces conditions que tu leur donnes. Entre les problèmes étatiques, les problèmes de distribution d'argent, des fédérations. J'étais au Gabon il y a quelques temps. Le championnat est arrêté pendant plus d'un an parce que les subventions n'étaient pas données au club.
Non, mais d'accord, mais il y a aussi quand même quelques gros équipes. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est un autre débat dont on peut parler pendant longtemps, dont j'ai par exemple discuté très longtemps avec Philippe Doucet, qui est un grand spécialiste du foot africain, qui lui-même allait jusqu'à me dire, moi, 5 sur 50, je ne trouve pas que c'est si scandaleux que ça, parce qu'ils n'ont pas montré, ils sont en retard sur les infrastructures. Les techniques d'entraînement, les moyens et tout. Peut-être, d'accord. Ok. Alors, moi, je ne pense pas la même chose que lui. Je pense qu'au Sénégal, au Cameroun, maintenant, avec notamment Eto'o et depuis quelques années, tu as quand même quelques équipes africaines. Tu parles du Gabon, mais le Gabon, ils ne sont pas à la Coupe du Monde. Ils ne seront peut-être malheureusement jamais. Oui, c'est un exemple. Mais le Sénégal, quoi, les autres équipes, elles ont quand même des grosses structures super bien organisées, comme tu dis, avec beaucoup, quasiment que des joueurs qui jouent en Europe, pratiquement. Des entraîneurs, c'était notre ami... je ne me rappelle plus son nom, celui qui a entraîné le Cameroun très longtemps, le légendaire entraîneur.
Claude Leroy.
Claude Leroy qui disait, vous me faites rire en disant ils ont des entraîneurs, entre guillemets, locaux. C'est des mecs qui ont fait toute leur carrière, qui sont peut-être pour certains nés en France, qui ont fait toute leur carrière en France. Maintenant, effectivement, Aliou Cissé, par exemple, et Eric Raghi parlaient pour le Maroc. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent. Moi j'attendais le Sénégal contre l'Angleterre sans Sadio Mané, sans Idrissa Gueye. C'est vrai que fallait vraiment un gros coup de que l'Angleterre soit pas au niveau pour qu'ils arrivent à passer. Oui. Et ils ont montré pendant 40 minutes qu'ils faisaient. Moi je crois, en tout cas je vois pas sincèrement la Corée, je sais pas comment ils se sont qualifiés, ils vont prendre une valise.
Alors justement, oui, on va finir là-dessus. 4-0, c'est la mi-temps, Eric. Hein.
4-0 la mi-temps, ouais, entre Brésil et Corée du Sud. Ouais. Avec donc un but de Vinicius, ouais. un penalty de Neymar, un but de Richarlison et un but de Paqueta.
Juste pour répondre à la question.
Après, c'est fini.
David, Philippe Troussier, il est actuellement en train de produire du vin, voilà, à Saint-Émilion. Voilà. Il a arrêté en 2021. Il faisait les U20 au Vietnam.
Ce qui est vraiment dommage, parce que autant en entraîneur de club, il avait un problème de vraiment réellement de caractère et autres. Mais pour les sélections, à chaque fois qu'il est parti dans n'importe quel pays, franchement, il a amené beaucoup de choses.
Apparemment, il fait du vin. Il les a même offert des bouteilles avant les.
Un dernier mot quand même. Je suis têtu. Le Corée du Sud, ils ont gagné qu'un seul match. C'est contre l'équipe bis du Portugal. Donc avant de dire bravo la Corée du Sud et puis
quand même, faut arriver
ils sont qualifiés. On parle du continent. On parle du continent.
Défend l'Afrique.
Merci messieurs, bien sûr.
On défend l'Afrique et l'Asie.
Le football.
Les deux.
C'est ça, surtout ça. Voilà, ça. Merci messieurs. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine.
Exactement.
On n'oublie pas Stéphane Montparis Sport. La semaine prochaine et puis le match de l'équipe de France. Donc
L'équipe de France. Alors finalement,
sur le quotidien TV, c'est samedi soir à 20h.
À 20h, donc
ça sera avec El Hadji qui est parti pour les cours d'anglais qu'on salue.
Chaîne Le Quotidien du Sport TV, hein, sur Visu, bien sûr, et puis après sur YouTube, et puis après l'après-match également, de la même chose. Puis ainsi que tous les articles sur la Coupe du Monde.
C'est ce que j'allais dire. N'oubliez pas les très bons articles du Quotidien du Sport.
Même si on a oublié, alors là, je me mets très des claques, Ronaldo et Modric dans les trentenaires. C'est la personne qui a fait l'article, bien sûr, c'est pas moi. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on retrouve notamment Noël Tosi, Jacques Vendroux, qu'on retrouve régulièrement en direct du Qatar.
Très bien.
Merci Noël Tosi.
Merci en tout cas, l'émission, elle sera en podcast. C'est un régal en tout cas. Et puis on en a encore pour 2 semaines, messieurs. Hein. Donc on vous retrouve la semaine prochaine. Allez, on termine avec Johnny Hallyday. C'était 5 ans qu'il nous a quittés aujourd'hui. Que je t'aime. Merci pour votre immense fidélité. Merci à Jason. Une nouvelle fois, il y a beaucoup de travail actuellement, notre ami Jason. Merci en tout cas pour tout. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée à tous.
Merci. Bonne soirée.
Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes.
Time.